on était toujours deux à ce moment-là. Sauf que nous, on s'est dit, les machines, on va les brancher et puis ça va être facile. Mais on reçoit les machines et rien ne marche. Mais genre, tu mets la pâte dans la machine, tout colle, ça découpe pas, ça sort pas. Et là, je me revois un jour où je crois que j'ai pleuré devant la machine. Et je me suis dit, ok, on a investi 100 000 euros et ça marche pas.
Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une entreprise. Je suis David Flack, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute!
Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent, vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro/flash, F-L-A-S-H. À très vite et bonne écoute.
Bonjour à tous, bienvenue dans La Galère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Shanti Baherel, la fondatrice de Shanti Biscuit, a.k.a. la Bisqueen. Salut Shanti.
Salut.
Est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, donc je m'appelle Shanti, mais on me surnomme la Bisqueen. J'ai monté une boîte qui s'appelle Shanti Biscuit et qui fait des biscuits personnalisés. Donc le concept, c'est vous commandez en ligne, vous tapez le message que vous voulez et on vous l'inscrit sur des biscuits qu'on fabrique nous-mêmes et qu'on vous livre. Aujourd'hui, on fabrique jusqu'à 40 000 biscuits par jour, nous-mêmes dans notre atelier de fabrication. Et on s'est fait connaître grâce à notre Instagram, notamment, qui regroupe plus de 100 000 abonnés aujourd'hui, voilà, pour donner quelques chiffres.
Donc, ce qui est incroyable dans ton business, et je pense que c'est ça qui va nous intéresser, c'est à quel point ça a l'air simple, mais en fait, ça ne l'est pas. à quel point tout un chacun peut se dire, attends, mais je peux le faire, moi, écrire un truc sur un biscuit, merci. Mais en fait, non.
Non, c'est beaucoup plus compliqué. Je n'étais pas prête à ça.
Et petit teaser, beaucoup de galères aussi à venir. Donc, pour ceux qui aiment bien les business direct to consumer, où tu vas vendre directement un produit fini à un consommateur lambda, écoutez cet épisode, je sens que ça va être bien. commençons d'abord, Shanti, par parler un peu de toi. D'où tu viens, où tu as grandi, qu'est-ce que tu as fait comme études, tout ça.
Donc j'ai grandi à côté d'Aix-en-Provence, où on est toujours. J'ai pas fait d'études, donc j'ai passé mon bac et après mon bac je savais pas ce que je voulais faire. Du coup je me suis inscrite à la fac, mais ça m'intéressait pas, donc j'ai pas tenu. Et vraiment par hasard j'ai trouvé un job dans une petite boîte à Aix qui faisait des rétroéclairages. Bref, c'est un peu technique.
C'est quoi du rétroéclairage ?
En fait, c'est des éclairages qu'il y a derrière des écrans. Dans la vision industrielle et l'aéronautique. Enfin, personne de ma famille n'a jamais compris ce que je faisais.
J'ai pas compris.
Non, c'est très technique, mais en fait, c'était une petite boîte et le patron, il avait inventé un procédé qu'il avait breveté, etc. Donc, on était 5 et moi, je touchais un peu à tout. J'étais autant opératrice de montage que contrôle qualité, livraison, flux des méthodes, ce genre de choses.
Okay.
Donc, ça m'a appris plein de choses au final qui m'ont servi avec Shanti Biscuit, mais c'était pas du tout un job où je serais restée des années. Mais bon, je savais pas quoi faire. Et ben, pour le coup, là, on m'avait embauchée. Et donc, j'ai fait, je pense, quelque chose comme 2 ans là-bas. Et un jour, il y a un centre équestre qui a ouvert derrière chez moi. Et j'adore faire du cheval, donc j'y suis allée. J'ai sympathisé avec le mec, c'est un mec qui venait de s'installer. Et puis, en gros, il m'a proposé un deal. Et il m'a dit, si tu m'aides au quotidien, parce qu'il était vraiment en galère aussi, tu payes rien. Je fais, oh bah vas-y, je pose ma dème. Je me fais un an de kiff, vraiment dans le centre équestre, immersion totale, 24 heures sur 24 quasiment. Donc, c'était trop bien. Mais au bout d'un moment, ça m'a quand même saoulé. Et mon ancien travail m'a rappelé et ils m'ont dit « La fille qui t'a remplacée s'en va, est-ce que par hasard tu veux revenir ?» J'ai dit « Ouais, je veux bien, mais que 2 jours par semaine, comme ça je peux continuer à faire du cheval. » Et voilà, donc je faisais lundi, mardi au travail et le reste du cheval.
Ok. Et donc, à un moment, T'en as eu marre de faire du cheval,
Ouais, à un moment donné, je me suis plus entendue avec le mec et du coup, je cherchais un deuxième travail pour compléter le mi-temps parce qu'il m'avait dit dans quelques mois, on pourra faire un temps plein, mais pas encore. Et j'arrivais pas à trouver un travail où les horaires concordaient. Et c'est là où, par le plus grand des hasards, j'ai eu l'idée de Chantilly Biscuit.
Alors, raconte-nous comment t'as eu l'idée déjà. Dis-nous le tout début.
Alors, en fait, c'était pour mes 24 ans. Je fais une soirée pour mon anniversaire. Et on m'offre un kit avec plein d'accessoires de cuisine rigolos, des trucs, des petits gadgets, quoi. Et dedans, il y avait un tampon à biscuits. Et sur le tampon, il y avait marqué « Approuvé par le chef ». Donc, je fais les biscuits et je me suis dit, c'est marrant d'avoir un message sur un biscuit, mais approuvé par le chef, c'est nul. S'il y avait un message plus drôle, j'aurais pu les offrir à quelqu'un. Et c'est là où je me suis dit, mais ce serait trop cool de pouvoir mettre des blagues sur des biscuits et les offrir. Je vois que ça n'existe pas et je me dis, bah vas-y, je vais le faire. Mais je me suis pas dit, je monte une boîte. Hein. Je me suis juste dit, je vais créer ce truc qui n'existe pas.
Et donc, comment tu le crées? Donc là, t'es en parallèle de ton taf.
Ouais, c'est ça. Bon, en fait, j'avais du temps à côté. Et donc, je trouve sur Internet un kit. Donc, c'était un emporte-pièce donc de la forme du biscuit petit beurre avec une petite réglette et des lettres. Et je trouve ça sur Internet et je me dis, bah vas-y, j'achète et je peux faire les biscuits chez moi. Et en fait, plus je réfléchissais au truc, plus je me suis dit, ah ouais, donc ok, si je l'ai fait chez moi, ok, il faudrait que j'ai une marque, il faudrait que j'ai un logo, il faudrait que je crée un site. Et puis après, tu te prends dans toutes les problématiques du démarrage, quoi.
Et donc là, t'as cette idée, t'as ton taf en parallèle, tu fais quoi? T'essayes de le vendre à tes copines?
J'en ai parlé à quasiment personne. Je me suis dit, je veux que ce soit mon petit truc à moi. J'ai pas envie que les gens me disent, tu devrais faire ça, tu vois. Je veux que ça reste mon truc pour m'amuser, en fait. Je me suis pas dit, c'est un business. Et puis moi, je pars zéro argent. Vraiment, je suis tout plaqué à faire du cheval, j'ai vraiment rien. Et la première problématique, c'est comment je fais un site. Enfin, j'ai pas du tout d'argent à mettre dans un site. Donc au début, j'essayais de bidouiller des trucs, un semblant de blog où on pourrait vendre, etc. Mais c'était tout nul. Et en fait, à ce moment-là, j'ai ma meilleure amie qui se fiance à un web designer et ils me disent « Si tu nous fais des biscuits pour le mariage, on te fait un site ». Qui était très basique. Moi, je le trouvais trop beau, mais quand je le revois maintenant, c'est pas possible que les gens aient pu acheter.
Ouais, et c'était fait sur quoi rapidement?
C'était un PrestaShop.
Un PrestaShop, ok.
Voilà, donc moi, j'avais fait faire un logo qui m'avait coûté 120 euros par une agence.
Donc PrestaShop, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle un CMS. Donc, c'est une sorte de site qui te permet de faire des sites e-commerce. C'est spécialisé dans le e-commerce, donc ça pense pour toi le flow classique d'un e-commerçant, les stocks, etc. Et donc, ça t'aide à créer ton site de manière hyper simple sans forcément avoir de compétences en dev.
Voilà. Donc, moi, il m'a fait un site assez basique. Et en fait, il y avait un encart où les gens pouvaient taper le message qu'ils voulaient. Et en fait, comme les gens commandent, ensuite je produis et je livre, bah, en fait, je pouvais commencer juste en ayant un site. Donc, j'attendais que j'ai une commande qui tombe, je faisais les biscuits et je les envoyais.
Et les photos, tu les as fait comment avec ton iPhone?
J'ai tout fait moi. En fait, j'avais un appareil photo. Ouais, je pense que je l'avais déjà. J'avais un appareil photo, donc j'ai fait des photos. Mais même au début, il y avait peu de photos. Enfin, c'était vraiment bancal. Enfin, j'ai amélioré au fur et à mesure.
C'est quoi? C'est globalement le site. Bonjour, on fait des biscuits personnalisés.
En fait, il y avait un bandeau.
Quelques photos d'exemples. Et
ouais, il y avait
quoi?
Un bandeau avec un biscuit où il y avait marqué, enfin, gravé sur le biscuit, votre texte ici.
Ok.
Personnalise tes biscuits. Et à l'époque, je crois qu'il y avait genre 20 parfums différents. Enfin, on a réduit, mais. Et du coup, il y avait tous les parfums avec une photo. Genre, c'était citron, j'avais fait une photo avec un citron, tu vois. Et donc, tu cliquais sur le parfum. Et dans les petits onglets, il y avait un onglet où tu pouvais inscrire ton texte, quoi, en gros.
Combien de temps ça t'a pris de faire tout ça? Là, entre le moment où t'as eu l'idée et le moment où t'as eu ton site lancé, il s'est passé combien de temps?
J'ai fait mon anniversaire, j'ai dû le fêter début octobre 2012. Et j'ai lancé le site avril 2013. Ouais,
d'accord.
À peu près 6 mois à réfléchir, tester les recettes.
Tester les recettes.
Bah ouais, très compliqué. Hein.
Et du coup, là, quand t'as lancé, t'as dit bah ceux qui vont venir, ils vont venir. Je vais faire les gâteaux moi-même, les biscuits moi-même, et je vais les envoyer par la poste.
Et c'était ça le concept.
C'était ça le concept.
Bah, ça y est toujours. En vrai, ça a été amélioré, mais c'est toujours le même concept. Et en fait, on n'a pas de revendeur.
Tu fais encore dans ta cuisine?
Non, mais le principe de comment? Non, je serais morte. Mais non. Et justement, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, pas de stock, pas de gros investissement qui m'a pu...
Donc à la base, toi, c'est ta pâte à toi, tout fait maison.
Ouais, en fait, j'ai passé... Bah, en fait, les mois aussi de préparation, c'était aussi à tester les recettes, faire goûter, voir que le message s'inscrive bien, parce qu'il faut que le biscuit soit beau et bon. Donc, assez technique. Aujourd'hui, on a vachement amélioré. Donc, les biscuits sont hyper nets, etc.
6 mois de R&D, entre guillemets, ouais. Pour créer des biscuits qui marchent bien.
Ouais, je faisais tourner les fournées un peu tous les jours. Et ça, par contre, j'en avais parlé à mon travail. Et du coup, je leur ramenais des biscuits tout le temps au café. C'est trop content. Ouais.
Et j'imagine que sur le nom, t'as dû vraiment galérer.
Mais au début, je voulais pas. C'est pas mon idée d'appeler Chanty Biscuit. Parce que c'était bizarre, tu vois, c'est mon prénom. Et moi, j'avais l'idée de écris-moi un biscuit. Et quand je suis allée voir une agence pour faire le logo, et c'est elle qui m'a dit « Ah, mais vous devriez faire Chanty Biscuit ». Et j'en ai parlé au mec qui me faisait mon site, et il m'a dit « Ah ouais, ça sonne bien, effectivement, fais-le. Bah, » Je sais pas,
fait,
ok.
Non, mais comme t'as un nom, on va dire, peu commun, ça, tout le monde s'appelle pas Chanty.
Oui.
Non, mais du coup, ça, c'est ça comme marche. Une marque, en fait. C'est un nom de marque. T'as
mais
un
oui,
marque.
Bah, maintenant, j'ai l'impression que je porte le nom d'une marque. Plutôt que
ouais, c'est
pas.
Ça, mais...
Mais très souvent, les gens pensent que c'est pas mon vrai prénom. C'est une question qu'on me pose tout le temps, mais c'est ton vrai prénom, enfin, mais comment tu t'appelles en vrai? Ça, j'ai tout le temps.
Et toi, t'as pas essayé de dire, en vrai, je m'appelle Léa.
Ouais, bah, si, on blagues, a fait plein de blagues, non, mais je m'appelle Chantal.
Chantal, mais oui, évidemment.
J'ai tout le temps, ça.
Ah, exceptionnel. Ah bon, Chantal, quand même. C'est vrai que ça change. Ok, super. Donc là, tu fais ça. Donc tu lances dans ta cuisine. Donc là, t'as ton joli site. Mais on sait très bien qu'avoir un site et avoir des visiteurs sur le site, c'est pas la même histoire. Mmh. Du coup, c'est qui tes premiers clients? Comment ça se passe?
Alors,
qui t'achète?
Au moment où je lance, je fais une page Facebook que je partage le jour du mariage de ma meilleure amie qui m'avait fait le site. C'est le jour où j'ai un peu annoncé officiellement que je faisais ça, vu qu'il y avait les biscuits partout sur le mariage. Donc, le lendemain, je partage sur Facebook. Et ce qui était cool, c'était qu'il y avait tous nos potes qui étaient au mariage, qui ont pu partager, dire « Ah, j'ai goûté les biscuits, c'était trop bon, machin ». Donc je partage, et en fait ce qui était ouf, c'est que la première commande que j'ai eue sur mon site, c'était quelqu'un que je connaissais pas. C'était assez ouf, moi je m'étais dit ça va être une copine, et je vois quelqu'un, en plus je vois une adresse qui est à l'autre bout de la France, je fais « c'est incroyable !»
Comment il est tombé dessus?
De quoi?
Comment il est tombé dessus? T'étais sur des réseaux sociaux à l'époque, juste t'as mis ton site en ligne?
En fait je pense qu'elle a dû taper « biscuit personnalisé », un truc comme ça, elle a dû tomber sur le site.
Parce qu'en fait t'étais la seule à faire ça.
Oui, après, ce qui existait, c'était les biscuits avec la pâte à sucre, mais le concept tel qu'on l'a fait, j'étais la première, ouais.
D'accord. Et ça n'existait même pas aux US, enfin nulle part.
Non, en fait, ce qui existait aux US, et je pense que le mec le fait toujours, il faisait des biscuits où t'envoies ta photo et il te fait une caricature et il t'envoie tes biscuits avec ta forme de ton visage, quoi. Mais vraiment, ce qu'on fait, nous, on est les seuls, donc, et dans le volume qu'on fait, les seuls dans le monde. Hein.
Donc, ouais. Pour recontextualiser, on est en 2013. Donc, c'est l'époque où, si je dis pas de bêtises, Facebook Ads, ça vient de démarrer, quoi. Facebook, je suis même pas sûr que ça, ouais, ça vient de démarrer. Et surtout, toi, t'as pas de connaissances digitales.
J'ai de nu, de rien.
T'as ton pote, enfin le mari de ta pote qui t'a fait un site, et t'es là, tu lances, en disant bon, ça va être mon side business, ou même pas.
Même pas.
Mon side kiff. Ouais. Une fois par semaine, il y a peut-être un mec qui va me faire une commande et on va le faire. Et qu'est-ce qui se passe après?
Du coup, après, tu te prends au jeu. Et comment je vais me faire connaître, etc. Donc, surtout que tu pars sans argent, sans business plan, enfin sans stratégie, t'es vraiment pur intuitif. Et donc, je commence en partageant sur Facebook. Et en fait, j'avais vachement orienté mariage parce qu'à ce moment-là, j'avais plein de copines qui se mariaient. Donc, je contactais un peu les trucs de mariage. J'avais réussi à faire un salon, etc. Et en fait, pour me faire connaître, j'ai contacté des blogueuses. À l'époque, c'était des blogueuses, c'était pas des influenceuses. Parce que ouais, j'avais entendu... Le mot influenceuse n'existait pas. Et j'avais entendu parler d'une marque aux US qui s'était fait connaître comme ça. Je sais pas, j'avais dû lire un article. Et je me suis dit, ah bah vas-y, je fais pareil. Donc, je prends les 20 blogs les plus gros en France et j'envoie un mail et je dis « Oui, salut, je m'appelle Chanty, je crée des biscuits personnalisés. Est-ce que ça te dirait d'en recevoir avec le nom de ton blog ?» C'était tout. Et je me suis...
Sans réponse.
Non, en fait, je me suis dit si ça lui plaît, elle va en parler. Si ça lui plaît pas, bah, j'ai perdu 20 euros. Quoi. Enfin, je m'en fiche. Et donc, toutes celles qui m'ont répondu m'ont dit oui. Et donc, j'ai envoyé les biscuits. Donc, forcément, elles ont posté.
C'est dans une certaine mesure la même stratégie que Christian Audiger avec Van Dutch et les trucs comme ça, tu sais, où il envoyait ses casquettes aux stars et les stars les portaient et ça donnait un truc
comme ça. Oui, j'aime la comparaison, merci.
Ah, mais en vrai, c'est la même stratégie, mais est-ce que t'étais pas conscient pour toi? Tu t'es pas dit, Christian Audiger, il a fait ça, je vais faire ça?
Mais non, moi, j'ai juste entendu parler d'une
marque. De manière
candide. Je pense que c'était Yankee Candle ou je sais plus, une marque de bougies, je pense, aux US qu'il avait fait. Et en fait, moi, les biscuits, ça me coûtait pas trop cher à faire. Et je me suis dit, rien à perdre en vrai, quoi. Et donc, je fais ça. Et il y en a une qui me répond, avec qui on est toujours en contact aujourd'hui et avec qui on travaille toujours, qui me dit, trop cool ce que tu fais, j'ai mieux à te proposer. Je lance un livre. À l'époque, on était en, je sais pas, avril-mai. Je lance un avril, je fais un événement en juin à Paris, 2 jours dans un concept store, tu veux pas venir? OK, j'arrive. Et donc, c'est la première fois, j'allais sur un vrai événement. J'avais emmené, mais je sais pas combien de biscuits, parce que je me dis, je sais pas combien il faut, machin, c'est quand même une blogueuse, etc. Et là, il y a toutes ces copines blogueuses qui passent, etc. Donc, tout le monde, prend des photos, machin. Et de là, je me suis fait contacter pour faire après un salon du mariage assez prestigieux à Paris où ils m'ont quasiment offert le stand. Et puis après, ben, ça a fait un peu boule de neige, quoi. Et en fait, la magie de notre business, mais ça, j'ai mis longtemps à vraiment le réaliser, c'est que comme c'est un cadeau, mais à chaque commande, t'as au moins une personne qui va découvrir. Donc, si c'est un anniversaire, ça va être une personne. Si c'est un mariage, ça va être 200 personnes. Si c'est une entreprise, ça peut être 1000. Donc, quand tu bosses dans le mariage, ça peut aller assez vite, en fait.
Donc, attends, tu nous as fait une belle ellipse, là. Raconte-nous. Donc, comment est-ce que ça a commencé à prendre? Est-ce que c'était que de l'organique comme ça? C'est-à-dire quelqu'un qui l'offre et de plus en plus de commandes qui viennent?
Ouais.
Est-ce qu'il y a eu une stratégie à un moment que tu as mise en place? Et à quel moment tu t'es dit, en fait, j'ai un business là?
Ben, en fait, ça a grandi, mais assez lentement. Hein. Enfin, je pense que la première année, je devais avoir 2 commandes par semaine, tu vois. Donc, okay. À chaque fois que j'avais une commande, c'était l'événement. Tu sais.
Donc,
limite, j'appelais tout le monde. J'avais une commande.
T'avais ton taf à côté.
Ouais, j'avais mon taf. En fait, donc, je lance en avril. Et jusqu'à la fin de l'année, j'avais mon travail à côté et c'était parfait. En fait, j'avais largement le temps de faire les deux. Et puis même quand j'avais des grosses commandes au travail, il m'arrangeait, etc. D'ailleurs, j'ai une galère à ce moment-là.
Et c'est-à-dire une grosse commande, c'est quoi une grosse commande à l'époque?
Bah, enfin, grosse à l'époque, c'était
un mariage, quoi.
Ouais,
100 personnes.
Si t'as 4 mariages qui tombent en même temps, tu vois. Et mais un jour, j'avais une grosse commande. C'était une entreprise en Suisse qui m'avait demandé 1000 biscuits. Ce qui était très gros pour moi à l'époque, 1000 biscuits à faire genre en une semaine. Et sachant que quand tu livres en Suisse, les délais sont un peu plus longs, etc.
Donc
et en fait.
2 jours.
Ouais,
le faire.
Un truc comme ça. Donc impossible de les faire et de les envoyer. Et ce que m'avait appris mon patron ou de la boîte où j'étais, il m'avait dit, c'était le mindset de la boîte, c'est tu prends toutes les commandes, tu te débrouilles pour les faire.
Ouais, complètement.
Je vais appliquer ça. Donc je dis OK. Et en fait, j'en ai parlé au travail. Ils m'ont décalé mes jours. Je pense que j'ai pas dû travailler de la semaine et je vais faire une semaine complète okay. Après. Et donc pendant 3 jours ou 4, j'ai fait que ça avec ma mère qui m'aidait à emballer les biscuits et on allait en voiture les livrer parce qu'on n'avait pas le temps de faire l'expédition. Et même les 1000, je savais même pas comment les envoyer, tu vois.
T'as tout blindé dans la bagnole et.
Bah ouais, après 1000, ça va, tu vois, c'est des biscuits, c'est pas énorme.
Et t'avais pensé à un packaging justement qui passait la poste parce que la poste, c'est un peu débourrant, non?
Non, mais maintenant, ça, on sait faire.
Mais à l'époque.
En fait, à l'époque.
T'avais pas envoyé des biscuits qui sont arrivés tout cassés
Ouais, ça, si, ça arrivait plein de fois. Mais en fait, on a fait plein de tests qu'on fait encore aujourd'hui. En fait, je faisais des colis et mes parents avaient une maison à étage, donc j'allais à l'étage et j'ai jeté. Par-dessus le toit. Si ça tient ça, ça passe. Et même, c'est ce qu'on faisait avant. On avait un étage dans le bureau, on lançait de l'étage.
Oui,
si ça donne 3-4 coups de pied dedans, ça passe. Et puis, c'est les tests, hein, en vrai.
Ok, très bien. Et comment ils te payaient? Donc, il y avait un truc de paiement directement. T'avais une société? T'avais pas de société?
J'étais auto-entrepreneur.
L'argent allait sur ton compte
à
toi?
Ouais, et tout était mélangé, hein, tu vois. C'était vraiment à l'arrache. Et j'avais un PayPal aussi pour les mariages, etc. Tu vois, quand je faisais des remises, que j'arrivais pas. Le PrestaShop, en plus, je comprenais rien. Donc, parfois, je faisais un direct sur PayPal. Et je fais comme ça. Et fin d'année, ma boss me dit « Ok, maintenant, on a besoin d'un temps plein, donc c'est le temps plein ou la rupture conventionnelle. » Et là, un gros dilemme parce que j'en vis pas du tout. Mon père me dit « Non, mais tu vas pas dire non à un CDI, machin, tu ferais les biscuits le week-end. » Et moi, c'était un set, je me dis « Si je fais les biscuits le week-end, enfin, c'est impossible. Je dois choisir. »
T'avais fait combien de chiffres d'affaires à ce moment-là?
En 2013, sur les 6 mois, tu vois, j'ai dû faire 6000 euros, tu vois.
Ouais, donc pas de quoi te dire que t'avais encore un business.
Mais non, enfin vraiment rien du tout. Sauf que elle me dit ça, je pense fin novembre un truc comme ça. Et là, je commence à avoir les commandes de Noël, tu vois, je commence à me chauffer. Je vois, c'est bon, si ça part comme ça, c'est bon. Donc je dis rupture conventionnelle. Donc je fais Noël et décembre c'est toujours notre plus gros mois. Donc là, j'étais au taquet. Je vois, c'est bon, j'ai pris la bonne décision machin. Et janvier, j'ai dû avoir 3 commandes dans le mois, un truc comme ça.
Donc, qui te commandait à Noël? C'était que les entreprises, c'est ça?
Non, à l'époque, c'était quand même peu d'entreprises, c'était beaucoup de particuliers.
D'accord, donc pour les cadeaux de Noël, c'est
exactement,
découvert
c'est
un mariage, etc.
Cadeau.
Et t'avais du service client à l'époque ou c'était juste 100% Internet
on a beaucoup. En fait, toute la partie mariage, il y a toujours des échanges avec les clients.
Par mail, et donc c'est toi qui répondais le soir.
Ah ouais, moi je faisais tout. Je faisais tout. Et en plus, comme plus tu commandes, plus tu as des prix dégressifs, ça c'était pas en ligne sur le site. Tu as toujours des demandes spéciales. Oui, alors je voudrais un sachet avec un biscuit chocolat en dessous, un biscuit machin avec marqué ça. Donc c'est trop technique.
Donc là, on est en janvier.
Ouais.
Tu as lancé ton truc, tu as quitté ton taf, tu as eu les grosses commandes de décembre.
Ouais.
Et là,
j'ai plus rien.
Janvier, plus rien.
Et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait?
Et là, le temps est long, tu te tournes les pouces.
Ah ouais. Janvier, c'était un des mois les plus angoissants de ma vie, hein, je me rappelle. En plus, du coup, pas de salaire, tu retournes chez tes parents. Et t'as les parents à côté, tu vois, qui te font bien comprendre, ben, en fait, qu'est-ce que t'as fait, quoi. Donc, ils te disent rien, mais tu sens le truc.
Et le chômage du SMIC, pas ouf, quoi.
J'avais pas le chômage, en plus.
Pourquoi? Rupture quoi?
En fait, j'allais voir Pôle emploi et ils m'ont dit que j'avais pas le droit au chômage. Ils m'ont dit, en gros, ton chiffre d'affaires de ton entreprise va être déduit de ton chômage et donc ça va tomber à zéro, un truc comme ça. Et en fait, 2 ans après, j'ai eu un autre rendez-vous pour je sais plus quoi. Et ils m'ont dit, mais en fait, si t'avais le droit.
Mais oui, il fallait prendre l'acre.
Ouais, mais non, mais moi, le mec m'a dit, les yeux dans les yeux, t'as pas le droit.
Ah, le bâtard.
Donc j'avais rien.
Ok, il t'a vraiment mis dans la merde. Ouais. T'aurais dû toucher 70% de ton salaire, ça aurait déjà été ça. Mais ok, et donc bon, tant mieux. Enfin, tant mieux, t'en es sorti, donc on peut en rigoler maintenant.
Oui, et puis du coup, ça m'a obligé à trouver des solutions. Quand t'as plus rien...
Mais du coup, tu fais quoi? Là, t'es en janvier, il n'y a plus de commandes.
Bah ouais.
T'as tes parents qui t'expliquent que t'as fait le mauvais choix.
Ouais.
Tu dois douter un peu. T'as pas de formation business, t'as personne
et
pour...
Je sais pas quoi faire, en fait. Donc, coup... Et il n'y avait pas, tu vois, les podcasts, tout l'écosystème startup, toutes les formations en ligne, rien. En fait, rien. Et autour de moi, personne n'est un peu entrepreneur, machin. Donc, je savais pas quoi faire. Pour me faire connaître, donc je pense que j'ai un peu attendu que ça reparte. Je faisais des photos, tu vois, machin, je créais des recettes.
Et t'avais même pas d'Insta à l'époque, non?
Non, si, j'ai dû avoir le compte Insta, si, j'avais dû mettre le compte Insta, mais c'était, ouais, je parle fin 2013, je m'étais vraiment, si tu remontes le compte Insta, il n'y a aucune stratégie éditoriale.
De temps en temps, tu mets une petite photo.
Je vois, je fais un biscuit, je mets une photo, je vais à la poste, je fais une photo.
Et t'avais 400 followers.
Ouais, un truc comme ça, un truc comme ça.
Et donc, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, je pense que j'ai dû relancer une vague un peu de blogueuses. Et après, il y a Saint-Valentin qui est vite arrivé, donc ça refait une vague de cadeaux. Et puis, les mariages sont repartis. En général, à partir de mars, ça repart. Donc, je pense que c'est reparti doucement. Ouais.
Combien tu les vends, les biscuits, on n'a pas dit, à l'époque?
Alors, à l'époque, j'ai vendu plus cher, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est 25 euros les 20 biscuits. C'est le minimum. Après, c'est dégressif.
Et à l'époque, c'était à peu près...
À l'époque, non, à l'époque, tu peux en acheter 10. Maintenant, on a augmenté le minimum de commandes. Et après, il y avait l'emballage qui variait. Je crois que j'avais fait 15 euros les 10 biscuits.
Ouais, d'accord. C'est ça. Et là, parce que pour dire à nos auditeurs, tu nous as offert une super boîte avec écrit Start the Fuck Up dessus, qui est une taille classique.
Ça, c'est un coffret, ouais.
Un coffret classique de boîte de chocolat, quoi. Enfin, ça ressemble à ça pour essayer de le...
Si tu veux,
la taille pour les auditeurs qui nous écoutent. Et ça, il y en a combien là-dedans?
Là, tu as 24 biscuits 24. Et ce coffret, il est vendu 32 euros.
32 euros, ok.
Voilà, personnalisation comprise, etc.
Et en moyenne, un client, il te rapporte combien?
Alors, je ne donne pas tous les
d'accord,
chiffres.
D'accord.
En plus, on a vraiment plusieurs typologies de clients. Tu as autant les mariages que les particuliers.
Okay, okay.
Enfin, mais bon, bref.
Donc là, t'es là, donc ça commence à repartir et tout, mais bon, t'as dit que t'étais sur 6000 euros pendant 6 mois, allez, ça a un peu monté, bon, t'étais sur un petit chiffre d'affaires.
Après, j'ai eu l'impression que ça allait assez vite l'année suivante, parce que t'as un effet un peu boule de neige, tu vois, en gros, tous les gens qui ont découvert sur les mariages, qui arrivent, etc., plus j'avais dû faire un ou deux salons du mariage dans le coin, etc. Et 2014, c'est là où je me suis vraiment sentie sous l'eau.
Mais là, t'es encore auto-entrepreneuse?
Ah, j'étais auto-entrepreneur.
Parce qu'auto-entrepreneur, normalement, t'as des coûts. Sauf que non, t'avais un statut d'auto-entrepreneur où tu pouvais déduire les coûts, c'est ça?
Non.
Non, donc en fait, tu prenais tous les coûts pour toi et tu payais les impôts sur le chiffre d'affaires. Donc, c'était pas la bonne structure.
Non, mais en fait le problème, c'est que j'avais personne autour de. Enfin, tu vois, je sais pas.
Ouais, non, c'est sûr. C'est...
Maintenant, tu vois, avec le recul, il y a plein de trucs. Je me suis dit, mais non, t'es
c'est
débile, tu vois.
C'est
mais
marrant,
en fait, t'as aucun. Quand tu sors de nulle part et que t'as personne autour de toi qui peut t'aider et que tu sais pas où trouver les réponses, tu vois, quelqu'un m'a dit un jour, mets-toi en auto-entrepreneur, c'est le mieux. Bah, je l'ai écouté, je l'ai fait.
Okay. Ouais, non, mais c'est normal.
J'ai pas challengé.
Mais du coup, là, ça commence un peu à prendre. Donc là, on est en mars. On parle de combien, là, à peu près
2014, en tout, j'ai dû faire entre 30 et 35 000 euros.
Okay,
donc, c'est quand même reparti beaucoup plus fort. Enfin, en étant toute seule, ça m'a parti.
Ou de faire, parce que
de chiffre d'affaires.
De chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire que c'est suffisant pour vivre avec la marge.
Mais en fait, comme tout venait sur mon compte et que j'avais quasiment pas de coûts fixes, enfin, tu vois, pas de.
Tu faisais toi, tu faisais chez tes parents et tout ça.
Ouais. Après, j'ai pris un appart l'été. Et là, je vivais ma meilleure vie, en vrai. J'étais tranquille, tu vois. Je faisais ma vie, j'avais les commandes qui tombaient, je gérais mon temps comme je voulais.
Toute seule.
Ouais, j'étais toute seule.
Et là, tu t'es dit, à quel moment tu t'es dit, OK, là, je suis sur un vrai business, il va falloir quand même que je m'équipe, ouais. que je commence à devenir une businesswoman.
C'est, je passe le Noël d'après, et là où trop de commandes, et là, je me dis, ça continue comme ça, je meurs. Enfin, j'ai plus de temps, je peux plus gérer. Je faisais, même l'été d'avant, hein, je me rappelle, c'était tous les jours 400 biscuits. De A à Z, donc tu fais la pâte, tu fais
tous les jours tu faisais 400 biscuits.
Ouais, tu tamponnes les biscuits un par un, tu les emballes, tu vas à la poste, tu fais les courses, tu fais les factures, les mails, les photos, enfin bref.
100% de ton temps. Donc là, t'es toute seule. Ça fait un an et demi que t'as lancé le business avec aucune stratégie d'acquisition, à part envoyer à des blogueuses.
Oui.
Et tu le fais quand t'as du temps, parce que j'imagine que t'as de moins en moins de temps. Mais donc t'as quand même quelque chose d'organique qui est en train de monter, donc ça c'est cool.
Ouais.
Est-ce que je peux te demander ton split entre. C'est les grosses commandes, c'est-à-dire la commande de fais-moi un mariage et à l'époque, hein, et la commande du particulier qui va t'acheter un truc à 30 balles. Quoi.
À l'époque, j'étais tellement à la rage que je n'ai rien les des stats, tout ça. Après, c'est assez saisonnier, tu vois. Par exemple, entre mai et août, tu dis qu'il va y avoir que des mariages, tu vois. Et entre les saisons basses, tu vois, genre octobre, mars, avril, c'est des petites commandes. Ouais.
Très bien. Et donc là, ça fait un an et demi, on est Noël, tu te dis je vais mourir si je commence pas à me structurer, mais entre dire ok je vais me structurer et je me structure, il se passe du temps, il se passe des galères, il se passe des
trucs. En fait, je me revois un soir chez moi là et j'étais complètement, t'es saoul, tu te lèves à 5h du mat, enfin les biscuits, bref, et en fait je me dis là il faut que, c'est là où je me suis dit il y a un business à faire. Et je me suis
au bout d'un an et demi.
Ouais. Je me dis, je peux plus gérer toute seule. Donc, si je peux plus gérer toute seule, c'est que j'ai créé un vrai truc.
C'est que j'ai un bon problème.
Voilà. Et donc, je me dis, il faut que quelqu'un m'aide. Mais qui peut m'aider? Et en fait, je pense qu'à une personne, c'était le grand frère de ma meilleure amie, qui lui était expert comptable et du coup, qui bossait pour des businessmen. Et à chaque fois que je le croisais, il me demandait de mes nouvelles et tout. Et je savais que lui, il avait un peu cette fibre.
Le gars qui aurait pu te sauver de l'auto-entrepreneuriat et te dire non, il faut pas faire
l'auto-entrepreneuriat. Non, mais en fait, à chaque fois, je le voyais, il était là admiratif de ce que j'ai fait toute seule, etc. Et je l'appelle un soir et je lui dis écoute, là, je sens que Chantilly Biscuit, ça grandit trop vite et trop vite pour que je peux gérer toute seule. Est-ce que tu veux m'aider? Je sais pas comment, mais est-ce que tu veux m'aider? Alors, il me dit merci, vraiment, tout ce que tu fais, j'adore, je suis trop fan, etc. Je veux bien t'aider, sauf que moi, j'ai pas le temps. Enfin, je peux pas passer mon temps dessus, mais par contre, j'ai un pote à Paris. Enfin, on fait quelques mois tout seul, tu vois, où on essaye d'avoir des prêts, etc. Et il me dit, j'ai un pote à Paris qui bosse en finance et qui veut devenir entrepreneur. Il est hyper smart, hyper brillant. Faut que tu le rencontres. Donc, je vais à Paris, je prends un café avec ce mec et alors, l'erreur que j'ai faite, mais maintenant je me dis, si ça s'était pas passé, j'en serais pas là aujourd'hui non plus. C'est qu'on prend un café et je dis, ok, on s'associe.
Voilà. Oh là 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 là. Ouais. Ok.
Ne pas faire. Danger.
Attends. Et donc, ok, on s'associe. Qu'est-ce qui se passe après? Tu fais quoi?
Bah, on s'associe.
Donc, il vient bosser tous les jours un peu.
En fait, lui, il était encore à Paris parce que il avait encore des trucs, enfin des business à Paris, je sais pas quoi. Et il descendait de temps en temps. Et donc, on s'est dit, ok, maintenant, le but, c'est qu'on me sorte moi de la prod et qu'on trouve un local, qu'on recrute, etc. Et que moi, j'arrête de faire ça. Assez compliqué, tu vois, genre je vais voir les mecs, on n'y connaît rien en biscuiterie ni rien, je vais voir les mecs qui vendent des machines de biscuiterie, je leur explique mon concept et ils me disent non mais ce que vous faites ça n'existe pas, il n'y a aucune machine pour le faire, c'est impossible.
De faire une machine qui automatiquement va...
Moi je lui explique le concept, alors voilà, les gens il faut qu'ils choisissent la personnalisation, minimum 20 biscuits, voilà, il n'y a pas une machine pour le faire. Il n'y a aucune machine pour le faire, sans facturer un outillage de 3000 euros à un client et attendre 6 mois que l'empreinte arrive. Tu vois.
Et là, tu dis merde.
Et je lui dis, non, mais moi, j'ai des commandes, il faut une solution, quoi. Et sur le coup, tu déprimes un bon coup quand même. Tu te dis, ok, ça se trouve.
Que le business n'existait pas, parce que c'est impossible.
Exactement. C'est pour ça, en fait, hein, que ça n'existait pas. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles ça n'existait pas. Pas de machine. Et en fait, le fait que tu dois vendre en direct au client final, tu vois. Genre, un LU ne pourrait pas faire ça.
On dit qu'il n'y a pas de machine, mais M&M's, il le fait, par exemple.
Non.
Tu peux acheter des M&M's
avec ta
photo. Non,
mais c'est pas de la
biscuiterie.
Ah, mais ça n'a rien à voir.
Ah, oula, attention.
Ça n'a rien à voir. Okay. Parce que ça, c'est de l'impression, tu vois.
D'accord.
Et vraiment, de graver des biscuits comme on fait, avant la cuisson, etc., ça n'existe pas. Et en fait, tu vois, tous les biscuits que tu achètes, même dans la grande distrib, tu as toujours des inscriptions dessus, tu vois, c'est jamais lisse. Ouais. Mais en fait, c'est des machines qui sont outillées comme ça. Et en fait, en gros, la technique qu'ils me disaient, c'est ben, tu outilles ta machine pour chaque commande avec un truc qui vaut 3000 euros et qui met 3 mois à arriver, tu vois.
Donc, chaque client te coûte 3000 euros pour acheter un truc à 30 balles.
En gros, ils me disent, c'est la seule possibilité de faire votre business. J'y vais, c'est pas possible.
Donc là, t'as un mec de 50 piges qui te raconte, qui t'explique un peu la vie, quoi.
Ouais. Maintenant, c'est devenu notre BFF, hein, par contre. Mais...
non, mais.
Mais et du coup, ben, franchement, vraiment, je me suis dit, ben, si ça se trouve, il a raison. Mais par contre, mais je peux pas arrêter, j'ai des clients à livrer, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et donc, on va faire des tests sur ces machines, etc. On se dit. Tant pis pour la personnalisation, on prend des machines standards et on personnalise à la main comme on fait, comme on faisait déjà, quoi. Donc
tu as quand même les machines maintenant qui vont te faire les. Donc c'est comment ça se passe? Tu prends un gros bac de.
En fait, c'est assez artisanal. Hein. C'est pas du tout une usine, tu vois, où tu mets la pâte et ça ressort dans la boîte. Hein. Il y a plein d'étapes manuelles. Mmh. Donc tu as effectivement comme un gros robot, tu vois,
qui va
pétrin.
Mixer,
tu vois, exactement. Tu mets les ingrédients, ça sort la pâte. La pâte, elle passe dans une machine ensuite qui fait la forme des biscuits. Et ensuite...
Toujours la même forme?
Ouais.
Ou tu fais pas comme McDo avec les nuggets, là, où il y a 5-6 formes
non.
différentes?
Non, bah, on veut que ce soit là, un peu la signature chantilly biscuit.
Très bien, très bien.
Et après, t'as aussi une version mini, quoi. Et...
Ça serait trop de tatouages, sinon.
si exactement. Des différentes.
Il faut savoir que chantilly, elle s'est tatouée justement un biscuit.
Oui.
D'où la blague, pour ceux qui voulaient comprendre.
Et donc, ensuite, ils sont tamponnés à la main. Ensuite, ça passe au four. Et ensuite, ça passe dans la machine, tu vois... qui fait les sachets, et ensuite t'as la partie mise en boîte, colis, etc.
Mmh.
Tout ça, c'est fait à la main. Et donc le mec avec qui je me suis associée arrive, on fait tous les dossiers pour avoir des prêts, prêts d'honneur, etc., pour pouvoir financer local, machine, et s'installer. Donc on fait des dossiers pour à peu près...
Donc c'était son taf à lui ?
Bah lui, il bossait en finance, donc oui, c'était sa partie.
Donc sa partie, c'était gérer le financement quand toi, tu gères le business ?
Ouais, financement et un peu, voilà, logistique, enfin, ouais, structuration de la boîte, tu vois, on va dire.
Toi, tu
comment
gères,
recrute. Okay. Moi, j'irais la prod, enfin, j'irais tout.
Toi, tu gérais la prod, en fait.
La prod, les clients, les réseaux, enfin.
D'accord.
Tout.
Enfin, okay.
Tout.
Une grosse ouais. C'est pour ça qu'on dit fondatrice, là.
Oui.
Ok, ouais,
je dois avoir un record du monde de biscuits. Et donc, on fait. On récupère à peu près 100 000 euros de prêts d'honneur, etc., qui nous permettent de trouver un local qui faisait 170 mètres carrés à l'époque. Donc, c'était vraiment un hangar avec deux pièces à l'intérieur. Et d'investir dans les premières machines. Grosse galère aussi pour les machines. Et de recruter la première personne.
D'accord.
Sauf que la première personne est arrivée d'abord en faisant les biscuits chez moi pendant 6 mois, le temps qu'on fasse les travaux et qu'on reçoive les machines. Ça, c'était épique.
Et donc, du coup, tu avais un mec qui vivait chez toi. Il venait à 5h du mat et il repartait à 19h.
Bah, en fait, c'était une petite déjà, mais c'était assez compliqué.
T'avais quoi? T'avais un 30 mètres carrés
En fait, donc, j'avais mon appart. Et en l'été 2015, mes parents sont partis vivre au Congo pour 3 ans. Et ils m'ont laissé leur maison. Okay. Donc, c'était parfait parce que du coup, j'avais pas de loyer. Et j'avais déjà, moi, j'avais plus de loyer perso. Et j'avais de la place. Donc, on vide salon et cuisine de tous les meubles. Et on met des tables et on met des fours et ça devient un atelier de production pendant 6 mois. Et donc, la première personne qu'on a recrutée, qui bossait avec moi dans le travail d'avant, parce que moi, j'avais dit, si je recrute une personne, je veux que ce soit elle ou personne, parce que je sais qu'on bosse ensemble et il faut qu'elle vienne chez moi, j'ai pas confiance. On avait bossé ensemble, ouais, genre 1 an et demi, et je savais qu'on s'entendait bien et qu'elle était top, etc. Elle est toujours avec nous aujourd'hui. Et elle venait chez moi ouais, de genre 8h à 17h et elle faisait des biscuits dans ma cuisine. Okay. Ouais.
Donc, parle-nous quand même de la galère avec ton associé, parce que je la sens
ouais.
Je la sens venir.
En fait, dans l'ordre, donc, on recrute donc cette personne qui arrive, qui s'appelle Marie-Pierre, qui m'a aidé à faire les biscuits. Donc, on faisait les biscuits à deux quand même, parce qu'il y avait trop de commandes pour que je puisse la laisser faire toute seule. En parallèle de ça, on fait les tests de machines chez le vendeur, on fait des visites de locaux, etc. J'ai eu une grosse galère avec un très gros client que je peux raconter, parce que c'était assez épique. Donc, c'était 2016. Et on s'est dit, la faiblesse du business, qui est toujours la faiblesse aujourd'hui, c'est qu'on a peu de récurrence. Tu vois, vu que c'est un cadeau, tu ne vas pas le faire toutes les semaines. Et on voulait avoir des clients qui nous commandent tous les mois ou toutes les semaines des commandes pour être sûr de rentabiliser les machines et de ne pas faire des investissements dans le vide. Et un jour, je reçois un mail de Frishti qui me disent... bonjour, on aimerait avoir un devis pour 2000 biscuits par mois. Là, t'as le miracle qui tombe au moment où t'as...
Sans avoir réfléchi, ouais. Enfin, sans... Chaque fois,
sans avoir démarché.
Ah ouais, sans avoir même pensé que tu pouvais faire du B2B pour des boîtes comme ça.
Jamais. D'ailleurs, Frishti n'était pas encore très connu. Enfin, on est vraiment arrivé à leur tout début.
C'est vrai que je me rappelle que j'avais reçu un chantier biscuit avec écrit Frishti dessus. Bienvenue. Ou
ouais,
merci,
il
m'avait
des petites blagues dessus. Et c'était très, très fort. Et en fait, pour l'histoire... La personne de Frishti avait découvert Chanty Biscuit en préparant son mariage parce qu'elle avait été tombée sur une publication d'un truc de mariage où j'avais offert des biscuits sur Insta. Et donc elle me contacte et là je me dis ah ouais purée, enfin c'est la commande parfaite, il nous la faut, en plus preuve qu'on peut avoir des clients récurrents, etc. Donc je dis ouais ok, ben je monte à Paris vous rencontrer, comme ça je vous fais goûter les biscuits machin. Et donc je sais pas, 2 semaines après je vais à Paris. Donc j'arrive, à l'époque ils avaient vraiment un bureau cuisine, enfin c'était assez drôle. Et là en face de moi la fille me dit ok, en fait c'est pas 2000 biscuits par mois qu'on veut, c'est 3000 par semaine. Sauf que nous
là,
tu t'es rappelé
de ce qu'il t'avait dit ton ancien boss, tu
bah
prends
ouais.
la commande et tu
ouais, mais
t'es
non,
débrouille.
Mais là, sauf que là c'était là dans ma tête qu'est-ce que je réponds parce que c'est impossible. Il me dit je peux pas dire non et passer à côté d'un client comme ça, et je peux pas dire oui et ne pas le livrer derrière, enfin. Et du coup, on était en avril, je me rappelle. Et là, j'improvise une réponse sortie de nulle part. C'était un éclair de génie. Et je lui dis, bah là, tout de suite, on ne peut pas le faire parce qu'on attend des nouvelles machines. Mais à partir du 1er juin, autant que vous voulez. Donc, je me dis, ouais, ça va.
T'es donné un délai de 1 mois et demi.
Je me suis dit, 1 mois et demi, je pense qu'elle peut attendre. Enfin, tu vois, c'est pas trop ouais. long. Je pense que dans 1 mois et demi, on aura reçu les machines, on sera largement
énorme.
Allé, alors qu'on était encore chez mes parents.
énorme bluff. Et t'avais commandé des machines, ouais. T'avais commandé, ouais, même pas.
On avait dû commander, mais en fait, c'est des machines où t'as 6 mois de délai, tu vois.
Ah ouais, merde. Et en plus de ça...
Et en plus, tu peux pas les recevoir chez toi, parce que c'est des prises spéciales, faut l'électricité, enfin...
Mais en plus, vu que tu connais pas tes coûts, comment tu te... Parce que forcément, s'ils te prennent ouais. une quantité comme ça, ils ouais. te négocient les coûts. Tu sais pas, toi, ta marge de manœuvre, parce que tu connais pas tes coûts.
Mais non, ah. Du coup, je lui dis ça. Donc, moi, j'étais fière de moi. Je suis bon, ben, ça va, j'ai réussi à improviser un truc. J'ai pas perdu le client, tout ça. Je reviens donc voir l'associé avec qui j'étais à Paris. Je lui explique et on sort un prix pas au pif, mais tu vois, il avait calculé les stats des machines. D'après les machines, on devrait sortir à tel coût le biscuit. Et puis...
On applique notre marge, bien sûr.
Ouais, et en fait, bon, finalement, il avait bien calculé quand même. Et donc, je lui sors le prix. Et genre, 1 heure après, la fille me dit « Ok, on en veut 20 000 pour le 1er juin.
» Et là, tu t'es dit « Merde, je ne les ai pas vendus assez cher. » Elle a répondu « Oui, trop vite.
» Je pense qu'elle a dû me négocier un petit truc. Okay. Elle a dû me négocier un truc et je lui ai dit « Non, mais ok, on t'offre, je ne sais plus, je sais pas combien de biscuits au début. » Enfin bref,
okay.
On a pas j'ai réussi à gratter comme ça. Mais oui, c'est sûr, je pense que j'aurais pu vendre plus cher.
Ouais.
Mais bon, là, tu dis... Tu vas signer 20 000 biscuits. Enfin, c'est genre
par mois ou 20 000 d'un coup ?
20 000 1er juin.
D'accord.
Mais bon, 20 000.
Ouais.
C'était énorme.
C'était quoi ton...
La plus grosse commande avant ?
Ouais, et surtout, combien t'en faisais en moyenne par mois ?
Alors, je pense que jusque-là, ma plus grosse commande, ça avait dû être 1 000 biscuits déjà.
Ok, donc là,
peut-être un peu plus, okay. Mais par là. Et à l'époque, on en faisait genre 600 par jour, un truc comme ça. En production, hein. Donc après, t'avais les 20 000, mais t'avais aussi toutes les autres commandes à côté, les mariages, etc.
Et ça périme, ce truc ?
Au bout de deux mois. En fait, on dit DLUO 2 mois, donc c'est plus pour la qualité du biscuit.
D'accord.
Que pour
ouais, mais donc
risque.
Tu voulais donner une bonne qualité, donc il fallait ouais. que tu fasses tout, tu pouvais pas genre... Ouais.
Ah non, tu peux pas commencer non plus le jour J. Et donc, je lui dis ok pour 20 000 biscuits, sauf que le lendemain, elle me rappelle, non mais il nous en faudrait quand même 5 000 pour la fête des mères en mai, etc. Bon, dans ma tête, je me dis bon, ça va, vas-y. C'est quand même okay. 20 000, tu peux pas dire non à un client comme ça. Donc je dis ok pour les 5 000 pour la fête des mères. Elle me rappelle, elle fait non, mais il nous en faut quand même 500 par semaine d'ici là, parce qu'on pourra pas tenir, machin. Je dis bon, ok. Bon, il nous en faudrait 700. Je dis ok. Il nous en faudrait 1000, je dis stop.
Ah ouais, t'as dit stop quand même.
Et en gros, on avait
30
000
biscuits. C'est la négo à l'envers.
Ouais. Maintenant, je me dis, mais j'ai freiné le truc, quoi. Mais bon, vous voulez pas nous tuer non plus. Et donc, en gros, on avait 30 000 biscuits à livrer à Frishti en genre 1 mois et demi. Et au final, on a tout fait de chez mes parents à la main. Wow. Parce qu'on s'est installé après, et là c'était la guerre, franchement.
Et donc
c'était
là,
la guerre.
Matin, midi et soir.
Mais en fait,
journée, week-end.
En fait, c'était assez technique à les faire à la main, parce que là, vraiment c'était étaler la pâte au rouleau à pâtisserie, découper les biscuits à l'emporte-pièce, comme tu fais tes sapins de Noël.
Wow.
Et en fait, c'est assez technique pour pas que la pâte soit trop épaisse et pour que les biscuits soient, tu sais, l'impression soit pas trop enfoncée, etc. Et en fait, on n'arrivait pas à former d'autres personnes à les faire aussi rapidement que nous. Donc, la stratégie, c'était, moi, je les faisais de 5h à 8h.
T'allais dormir ?
Non, même pas. Non, okay. J'ai 5h à 8h. Marie-Pierre arrivait, elle faisait de 8h à midi les cuissons. Et ensuite, elle préparait les pâtes pour le lendemain. À partir de genre 11h, j'avais des potes qui arrivaient pour emballer les biscuits et eux qui emballaient tout l'après-midi. Et pendant qu'ils emballaient, bah, moi, je faisais le reste, tu vois. Y avait quand même les courses, les colis.
Les clients à faire, ouais.
Il n'y avait pas que ça, ouais.
Le service client, ouais. Les nouveaux clients.
Et donc, en plus, va trouver des potes qui sont dispo en journée, tous les jours.
Et t'as pas essayé de prendre des intérimaires à ce moment-là pour...
On n'avait pas de budget non plus, en fait.
D'accord. Parce qu'ils t'ont pas payé en avance, du coup, ils t'ont payé après la livraison.
Ils ont dû me faire un acompte, je pense, mais en parallèle de ça, on a acheté les machines,
donc
etc.
Donc tu pouvais même pas financer tout ça, donc c'était juste toi.
En fait, il y avait des potes que je payais. Il y en a qui voulaient pas que je les paye, qui étaient dans mon mode, je viens t'aider, etc. Mais et là, au fur et à mesure que les jours arrivaient, je me suis dit, bon, jamais pouvoir livrer. Enfin.
Comment t'as fait? C'est juste.
Et même,
en plus, la cuisson, enfin, tu vois, il y a des trucs, t'as un four, t'as une cuisson, enfin, il y a des maths, quoi.
En fait, on faisait 32 biscuits par fournée, quand même. Donc, c'était... Et on n'arrivait pas à monter à plus que, je sais pas, peut-être 700, 800.
Bah, heureusement que le four...
En plus, c'était emballé individuellement, donc t'as vraiment...
Heureusement que ton four n'a pas pété, parce que...
Bah si, il a pété.
Ah, bah oui, quand même, ça serait pas marrant, sinon.
Ah, à la fin, on avait 3 fours en parallèle dans le salon, quand même. Et le mec de Darty, il est venu réparer les résistances, mais au bout de 6 mois. Mmh. Il dit, non, mais les fours... vous les utilisez combien? Je fais genre, 4 heures par jour, ouais, tous les jours. Ouais. C'est pas fait pour ça. Donc, ouais, t'as les fours qui pètent, t'as l'électricité qui lâche, enfin, t'as tout, hein. Mais c'était quand même galère
donc,
à les emballer.
Donc, tu les livres, mais là, t'es en dépression.
Bah,
nerveuse.
Non, attends, déjà, comment tu envoies 20 000 biscuits?
Bah, là, tu fais comme la dernière fois, non?
Non, mais 20 000, là, 20 000, c'est une palette. Hein.
Tu prends un camion.
Là, du coup, on contacte des transporteurs. Et on fait le rendez-vous dans le jardin de la maison. Le sketch, ils se disaient, mais c'est vraiment c'est taré.
Donc, tu leur donnes la palette?
Mais en fait, c'est un camion qui arrive. Et du coup, non, mais le commercial nous dit, non, mais les camions, ils ne viennent pas dans des résidences comme ça chercher les palettes. Donc, en fait, on a monté la palette sur le parking de Lidl. On a blindé les cartons et la palette dans le coffre de ma voiture. On a monté la palette sur le parking de Lidl et j'ai laissé un pote avec la palette et j'ai dit, t'attends le transporteur.
Et donc, c'est comme ça que t'as livré les... Ça ressemble à quoi en termes de...
Une palette, elle doit faire, je sais pas, 1m50 de haut, okay. Sur 1m50 de large. Ouais, c'était un cube, tu vois. Et t'avais, je sais pas, une vingtaine de cartons dessus. Mais au fur et à mesure où on produisait les biscuits, moi, je voyais qu'on n'arriverait jamais à faire les 20 000 pour le 1er juin.
Tu continues à grossir organiquement, tu vois que ça se passe bien avec Frichy, va falloir que tu... Donc là, c'est le moment où, c'est ce qu'on disait au début, ça a l'air facile, mais là, ça devient dur.
Ah non, mais là t'es au moment où... Là, c'était horrible. En fait,
parce que là, t'étais en mode... artisanal, et là c'est le moment où tu dis ok, je m'outille ou c'est fini.
On a tiré le truc artisanal au max du max, et même moi je voyais qu'on n'arriverait pas à livrer Frichti, et en fait, les 20 000 c'est impossible. Je voyais tous les jours, il faut qu'on arrive à faire 2 000 par jour, on n'arrive pas. Et donc je me suis dit, si Frichti ils veulent les donner dans leur commande, ils n'ont pas besoin d'avoir les 20 000 le 1er juin en fait. Donc j'aurais proposé qu'on livre 10 000 le 1er juin et 10 000 le 15 juin. Et ils ont été OK. Comme ça nous a laissé encore 15 jours. Mais on a fini en faisant les biscuits le matin même du transporteur. Et la deuxième palette, donc des deuxièmes 10 000, on l'a montée dans le local qu'on avait signé, mais qui n'avait pas les travaux. Donc on a mis les cartons et on a attendu le transporteur. Mais c'était le stress de ma vie. Hein. Tu te dis, tu ne peux pas planter un client comme ça. C'est le client qui peut nous faire vivre. Et en même temps, tu n'as pas de ressources, il faut trouver des potes. Enfin,
comment tu fais ensuite pour te structurer?
Ensuite, du coup, on a notre local, donc on fait des travaux, on réceptionne donc les machines. Donc à la base, c'était donc une sorte de pétrin, la machine qui découpe les biscuits, un four et la machine qui emballe les biscuits. Sauf que nous,
et au milieu, quelqu'un qui fait...
Et en fait, entre toutes les étapes, tu as des gens, tu as une personne, quoi. On était toujours deux à ce moment-là. Sauf que nous, on s'est dit, les machines, on va les brancher et puis ça va être facile. Mais on reçoit les machines et rien ne marche. Mais genre, tu mets la pâte dans la machine, tout colle, ça découpe pas, ça sort pas. Et là, je me revois un jour où je crois que j'ai pleuré devant la machine. Et je me suis dit, OK, on a investi 100 000 euros et ça marche pas.
Comment t'as financé les 100 000? C'est avec les aides?
Ouais, on avait deux machines en crédit bail. Donc, c'est la banque qui a acheté, on remboursait la banque. On a fait un prêt et deux prêts d'honneur et on a une subvention. Et en gros, on a tout mis dans les travaux du local, travaux assez basiques, première série de machines, parce que des machines assez chères. Hein. Genre le four, 15 000 euros déjà, la machine d'emballage, 25 000, un truc comme ça, donc ça part vite. Et même la machine qui emballait les biscuits, rien ne marchait. Mais franchement, enfin, c'était mais l'été le plus angoissant de ma vie.
Ouais.
Et là, je me rappelle, ma salariée, donc elle prend des vacances en août. Donc en août, j'ai essayé de faire marcher tout seul.
Donc toi, zéro vacances, évidemment.
Bah non, il faut livrer les clients, t'as les mariages. Mmh. Et là, mais rien ne marche. Enfin, franchement, les biscuits ne sortent pas. Et on avait les machines et on continuait de les faire à la main parce qu'on n'arrivait pas à faire marcher les machines quand même.
Et toi, t'allais pas au mariage de tes potes?
Ah bah non, mais attends, priorité c'est les clients. Enfin,
donc t'as refusé des mariages de tes potes pour
de
tes potes à toi? Non, pas le mariage des clients, mais toi c'est la saison des mariages, donc tu prenais des day off quand même pour aller à des mariages, des trucs.
Je sais qu'en 2014 je suis allée à un mariage. Oui, j'ai dû faire.
Tu sentais que ton équilibre vie pro vie perso était.
J'ai jamais eu d'équilibre. Non, mais moi ça m'a tué, chantier parce que la 2016 j'ai pris 20 kilos, j'ai perdu depuis. Ah ouais. Mais parce que ça, enfin trop de stress, plus après le problème des associés qui sont tombés en même temps que ces machines.
Donc
qui marchaient
ouais,
pas.
Donc
ça arrive un peu après. Donc, enfin, attends, ça commence à monter.
Je te laisse faire de l'histoire parce que on a envie de savoir. Là,
oui,
c'est
oui. Non, mais 2016 c'est l'année de la galère vraiment, et c'est pour ça que maintenant aujourd'hui je me dis mais tout est simple.
Ouais, parce qu'en fait c'est 2016. C'est le moment où tu es passé de chantier dans sa cuisine à chantier chef d'entreprise, en fait.
Ouais, on peut dire ça. Oui.
Et donc, tu as fait un MBA, quoi. C'est effectivement un MBA, sauf que tu as tout appris sur le terrain.
En fait, ouais, nous, le vrai challenge, c'est la partie production. Et tu as le truc qui augmente, etc. Et vraiment, mais les machines, c'était à se tirer une balle. Enfin, tu comprends pas comment ça. Rien ne marchait. Même, je me rappelle, on reçoit le four. Donc, vraiment, le four. Tu vois, tu peux rentrer debout dedans, tu vois, pour te donner une idée de la taille.
Okay.
Il y a une énorme vitre sur la
comme dans Top
porte.
Chef, c'est les fours de Top Chef, un peu. C'est ma seule référence culinaire.
c'est comme une armoire, tu vois.
Et tu as plein de...
Ouais, voilà. En fait, nous, on a les plaques du four qui se mettent sur un chariot et tu mets le chariot entier dans le four,
d'accord,
en gros. Et donc, on reçoit le four, il y a le technicien qui branche, qui m'explique comment ça marche, etc. Donc, on fait 3 jours à les faire cuire dedans. Et le troisième jour, donc j'allume pour préchauffer, je pars. Je reviens et là, t'as la vitre qui est fendue, mais tu sais, fendue mais entièrement. Et tu sais, t'as le moment où tu te dis, c'est pas vrai, tu vois, c'est pas réel.
Ok, et donc c'était quoi?
Et là, j'appelle le mec, non, mais ça nous est jamais arrivé, machin. Il y a dû avoir un pet dans le transport et ok, ben on va vous renvoyer une vitre. Sauf que le temps que la vitre arrive, ben t'as plus de four.
T'as 3 jours ou t'as pas de four. Ouais.
Du coup, tu refais dans les petits fours. Là, c'est moralement pour l'équipe. Enfin, l'équipe, on était deux. Et pour l'équipe, c'est dur.
De toi et ton associé. Non, toi.
Moi et moi, ma salariée, quoi.
Mais du coup, la question que tout le monde se pose, il fait quoi l'associé en ce moment?
Lui, il était encore à Paris. Il venait de temps en temps, mais il n'était pas du tout dans l'opérationnel. Et justement, c'est un des points de friction. C'est qu'en fait, il ne comprenait pas les problèmes qu'on avait, nous. Tu
n'es pas sur place, ouais.
Exactement. En fait, les rendements des machines ou pourquoi on n'arrive pas à sortir la pâte de la machine alors que c'est censé marcher.
Mais du coup, ok, il a négocié les crédits bas et les trucs et tout ça, mais au quotidien, combien de temps ça lui prenait la boîte?
Ouais, je sais pas.
Non, mais
il y avait un autre projet à côté. Enfin,
c'était
dire,
un peu difficile, ok.
Je saurais pas dire. Après, tu vois, je suis donc, pas là à l'insulter.
Non, bien sûr. Mais là, tu sens qu'il y a un problème. Tu commences à sentir que l'association marche pas.
Ouais, et moi, ça commence. Enfin. Je me sens plus du tout maître du truc.
Donc tu dors pas de la nuit, donc tu dois être assez irritable.
Ouais, mais même au-delà de ça, tu vois, même sur la stratégie, on va dire même éditoriale, la vision de la marque, etc., je sens qu'on n'est plus en phase, en fait.
Il était trop loin, en fait, de l'opérationnel pour vraiment bien comprendre ce qui se passait.
Et puis, il y avait ce truc aussi où, comme lui, il avait fait des grandes études, etc., tu vois, il me le rappelait. Et en mode, moi, je sais, tu vois. Enfin, moi, j'ai fait une école de commerce, moi, je sais. Bref, normalement c'est pas facile. Ouais. Quand toi t'as tout créé et que le truc, c'est toi qui as les mains dans la pâte, vraiment, qui fait tout, enfin bref.
C'est ça le grand kiff quand toi t'as fait une école de commerce, c'est que personne peut dire moi je sais. Tu sais qu'il va se calmer, et au moins il te prendra pas sur cette erreur-là.
Non, j'ai fait tous les postes de ma boîte. Donc,
vraiment.
Et donc au final, donc on est à côté d'Aix-en-Provence et à Avignon, il y a un gros pôle agroalimentaire. Donc j'ai appelé des gens là-bas qui sont venus m'aider à mettre les process de prod en place pour arriver à sortir les biscuits des machines déjà. Parce qu'on avait des gens qui sont venus passer des journées entières à retravailler les process de prod. Mais c'est un truc que j'aurais jamais pu faire toute seule, tu vois. C'est genre, ok, il faut mélanger le sucre et les œufs à telle vitesse et pendant tant de minutes. Et si tu fais 2 secondes
de
plus, ça marche pas.
C'est la vraie chimie, ouais.
Et surtout que moi, j'étais vraiment intransigeante autant sur les ingrédients que sur la qualité du biscuit, etc. Tu vois, et il me disait, ta pâte est trop... ta pâte est trop humide. Je fais, non, mais il n'y a pas d'eau dans la pâte, alors je ne vois pas ce que je peux faire. C'est impossible. C'est vraiment de la chimie. Et aujourd'hui encore, on s'en rend compte. Et donc, déjà, il nous aide à arriver à sortir les biscuits des machines. Donc là, déjà, tu revis et tu te dis, bon, ça va marcher. Et oui, donc on s'entend plus avec cet associé. Et puis un jour, il se passe un truc. On a un rendez-vous où là, j'ai un déclic. Tu vois, genre j'ai une vision où je me dis, non mais en fait, j'ai pas fait ça pour ça. Enfin, tu vois, où tous les soirs, j'envoie des mails à mes parents. Lundi, j'arrête. Lundi, je lui dis que j'arrête.
Ah oui, c'est vrai. Là, tu dis, allez.
À un moment, j'ai pas fait ça pour me tuer. Enfin,
Ok. Et raconte-nous.
Et donc, les deux associés ensemble, parce que l'autre, elle va aussi quelque part, ils avaient 40% de la boîte.
Et t'avais pas fait de vesting, forcément, t'avais tout donné d'un coup.
Bah oui, et pas de pacte d'associés, rien. Donc, un jour, je leur dis, ok, je veux racheter vos parts, machin. Et là, ils me sortent des montants. Déjà, je me fais insulter. Bon, j'ai envie que j'encaisse. Et ils me sortent des montants impossibles à sortir, tu vois. Et donc, on se retrouve dans un moment où il n'y a pas d'issue possible. Et donc, on ne se parlait plus, en fait. Tu vois, moi, je continuais le truc. Il n'y avait pas de solution possible. Et eux, ils prennent de la distance. Du coup, moi, je me ressens un peu mieux dans ma boîte. Tu vois, je reprends un peu plus de plaisir, on va dire. On recrute une autre personne qui, elle, vient de l'agroalimentaire pour vraiment gérer la prod. Donc, l'idée, c'était que toute la partie production, moi, je lui envoie les commandes, elle gère, tu vois. Tu commandes, tu fais le stock, toi, ton job, c'est de livrer les clients, point barre, tu vois. Moi, je veux plus faire ça. Et donc, ça m'a dégagé un peu plus de temps. Et en plus, avec Frishti qui distribuait en masse les biscuits, là, la boîte, elle commence à grandir, etc. Je commençais à avoir des gros clients, des trucs assez intéressants, même sur Instagram, ça commence à grossir, etc. Et un jour, je fais un rendez-vous chez The Family, parce que j'étais aussi accompagnée de loin par The Family. Et puis, je leur dis, ça commence à... Je sens qu'il y a une accélération. En plus, la prod, elle commence à tourner, etc. Et puis, ils me disent, ouais, il faudrait peut-être le moment de lever des fonds, etc. Et donc là, je leur dis, mais j'ai 40% qui dorment, quoi. Ils disent, c'est pas possible. Ouais. Et donc, c'est en gros, c'est Oussama Amar qui a réussi à dénouer la situation. Et j'ai racheté.
Comment il a fait? Il les a appelés?
Déjà, au début, il m'a mis en relation avec ses avocats. Donc, on a essayé de passer par les avocats, mais on n'arrivait pas à trouver un montant, tu vois, que je puisse payer et qu'eux soient d'accord. Et au final, le deal, c'était que je rachète 3/4 de leur part pour, je peux le dire, on s'en fout, pour 30 000 euros, en gros. Okay. Sauf que moi, je ne les avais pas. Et en fait, à ce moment-là, mes parents étaient encore en Afrique et j'avais procuration sur leur compte en banque.
Mais non.
Et en fait,
sans leur dire.
Attends, en fait, Oussama me dit jusqu'à combien tu penses que tu pourrais mettre pour racheter leur part. Et moi, je regarde les comptes de mes parents. Je dis, je pense 30 000. Et il me dit, on peut tenter un truc, c'est de dire, tu rachètes une partie de leur part, et au moins, ils ont encore un petit pourcentage, et du coup, ils vont pas non plus t'embêter pour la suite, et puis tout le monde est content. Ouais. C'est soit ça, soit la boîte s'arrête. Moi, c'était je continue pas.
Et du coup, t'as demandé à tes parents, t'as dit bonjour, papa.
Oui, je leur ai demandé, pas m'avancer 30 000 euros. Après, ils étaient au courant de l'histoire, et okay, etc.
Donc, tu savais quand même que t'avais une boîte qui commençait à devenir un peu viable, avec des vrais comptes.
Ouais. Et en fait, à partir du moment où les associés sont arrivés, ils ont commencé à se dire, c'est crédible.
Toi, un prêt perso? Tu voulais pas?
J'ai pas pensé, honnêtement, et j'avais pas forcément. Je préfère m'endetter auprès de mon père. Enfin, c'est toujours été ma meilleure banque.
Ouais, c'est certain.
Il n'y a pas de problème.
Ça aura pas d'huissier.
Voilà, il n'y a pas d'intérêt. Et donc, mes parents me prêtent 30 000 euros. Et bon, on a quand même mis longtemps à s'en sortir, à signer le deal, etc. Et ils sont sortis. Enfin, j'ai dû faire le virement, allez, mars 2017, quelque chose comme ça. Et là, c'est là où Chantibiscuit a explosé après, en fait. C'est là où sur Insta, l'Insta a décollé.
Et donc, raconte-nous cette stratégie.
En fait,
là, pour l'instant, dans l'histoire, vous êtes deux...
deux salariés.
Donc, des gens, on va dire, qui font la prod, qui font la strat.
Non.
Donc, toi, tu deviens
moi, je fais tout le reste.
Donc, tu t'es un peu extirpé de la prod, donc tu as un peu plus de temps. Et comment est-ce que tu... va mettre en place ta stratégie
Déjà, je passais quand même beaucoup de temps avec les clients, etc. Parce que bon, tous les mails, les rendez-vous, c'était moi qui faisais, machin. Et en fait, déjà, je me suis dit, mais en fait, là, la marque, elle me plaît pas. Je refais tout. Je refais un site, je refais un logo, je refais vraiment toute une charte. Là, je me dis, OK, maintenant, on est une vraie marque. Je prends une agence, on fait un truc clean, on change le site, on fait un beau truc. Et puis, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de mettre sur Insta? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi qui me fait kiffer, moi, en fait? Et c'est là où j'ai un peu trouvé ma voix et mon identité sur Instagram. Et c'est là où ça a décollé. Notamment avec un biscuit qui est devenu iconique. Parce qu'un jour, à l'époque, on avait majoritairement des commandes de déclaration d'amour, anniversaire, mmh. un peu cucu. Bon, ça reste quand même la majorité des commandes. Bon.
T'as mis des blagues.
Voilà. Et un jour, il y a une fille qui m'a envoyé un message sur Facebook. Elle me dit, j'ai découvert ton concept, c'est trop cool. Je vais me commander les biscuits pour larguer mon mec. Ah, mais c'est génial. Ça, c'est de la commande. Et donc, elle prend 20 biscuits avec marqué « Je te quitte ».
Ah ouais, carrément.
Trop marrant. Wow. Et sauf que nous, ça nous a fait trop rire. Et on s'est dit, mais elle aurait dû mettre un truc plus fort, genre « Je te quitte, connard », tu vois. Et donc, je me suis dit, ah bah vas-y, je le fais pour Instagram. Et c'était un des premiers biscuits que j'ai fait exprès pour Instagram, je pense. Je le mets sur Insta. Et là, il y a eu je sais pas combien de reposts. On est passé sur plein de blogs. Enfin, vraiment, il y a eu une petite effervescence sur ce biscuit. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, Chantibiscuit, tu vois. C'est de mettre des biscuits dans des situations du quotidien où tu t'y attends pas forcément et de faire passer tous les messages sur les biscuits.
Un peu à l'image des t-shirts avec messages qui marchent bien, tu sais, où on voit des photos de Jacques Chirac
ouais,
avec un petit truc ou des
biscuits,
petits jeux de mots.
Le truc où tu peux tu fais un café, tu sais, tu glisses ton message, tu peux trop visualiser le truc, t'arrives, tu vois, j'ai ta belle-mère, petit biscuit. Ben. Et c'est là où j'ai trouvé mon identité sur Insta et j'ai commencé à mettre plein de biscuits de situations du quotidien.
Et donc,
vraiment t'avais
une partie de la prod qui était destinée à tes petites blagues, ça, tout.
Ouais,
toutes
bah,
les semaines,
même aujourd'hui, tu vois, c'est genre. Ouais, il y a une dizaine de biscuits par semaine que je fais faire pour mes
chaque
photos
fois,
Insta.
Une nouvelle blague, juste
ouais.
pour le compte Insta, ouais.
Ouais, juste pour Insta. Et puis c'est là où l'Insta il a commencé à grandir et j'ai aussi participé au salon des Instapreneurs, donc Instagram a fait un salon en 2017 à Paris, donc j'étais dans la sélection, donc beaucoup de presse etc, et c'est là où vraiment l'Instagram il a monté assez vite et où la marque elle est devenue où l'entreprise est devenue une vraie marque, on va dire qu'on a une identité et ok Chantilly Biscuit c'est mettre des messages rigolos sur les biscuits.
Et en termes de RH, comment ça a évolué tout ça?
2017, on était 4, on était 5. J'avais 4 salariés en production. Donc, c'était toujours moi qui gérais le reste.
C'est quoi
mais
c'est des salariés payés, salaire.
J'avais, j'avais ma chef de prod à qui je gérais les commandes. Elle avait son équipe de 3 personnes qui faisaient les biscuits, les cuissons, l'emballage, les colis, etc.
Et à ce moment-là, tu maîtrises un peu tes coûts, tu as des reportings, tu sais à
non,
peu
rien.
Près.
Non, rien. En fait, le truc va très vite. Et moi, je suis un peu sur tous les fronts.
Mais t'as pas peur de pas être rentable parce que quand t'embauches des gens, tu te dis pas quand
toujours
même,
été rentable.
Mais quand tu prends la décision d'embaucher des gens, ouais. Si t'as pas les calculs de marge, tout
ça. Après, nous, c'était vraiment en production. C'est un mode. Il nous manque quelqu'un parce qu'on n'a pas la capacité de produire pour les clients. Donc je me dis, on n'a pas le choix. En fait, il faut rajouter une personne.
Mais tu savais que marginalement, ça allait marcher, quoi. Que
je sais pas vraiment
les biscuits
fait
en plus.
Non.
Ok.
Non, mais en fait. Moi, c'est pour ça que j'ai jamais recruté, jusque-là.
Parce que t'aurais pu te retourner, tu sais, le classique de confondre trésorerie ouais. et vraie ouais. marge, et t'aurais pu penser que, comme t'avais de la trésorerie, t'étais rentable, en fait, ouais. te mettre sur un modèle pas du tout rentable et te réveiller à la fin de l'année et dire, en fait, vous avez perdu
de l'argent. Non, en fait, j'avais même pas ces réflexions ni ces calculs. Moi, c'était genre, en fait, on a toujours couru un peu après les livraisons, on
D'accord.
va dire. Enfin,
bon problème.
Ouais. Et zéro budget marketing jusqu'à 2018 parce que toujours comment ils vont produire les biscuits derrière tu vois.
D'accord.
Et étant passé par là je suis dans les galères, je vais aider etc, donc tu vois, à refaire je pense que j'aurais eu moins peur de pousser la croissance, mais là c'était vraiment c'est vraiment chaud.
Et pas de financement, enfin comment tu
là non ça tourne seul en fait.
Il n'y a pas un moment où tu t'es dit on va prendre un prêt à la banque pour je sais pas acheter plus de machines et pousser un peu?
Non, pour l'instant ça passait. Et en fait, donc 2017, on fait une belle croissance encore. Et fin d'année, surtout que moi, en fait, je montais très souvent à Paris parce que tout se passe à Paris, les clients, les hôtels, etc. Et j'avais pas mal d'hôtels avec qui on bossait, qui donnaient les biscuits en cadeau d'accueil, donc dans les chambres.
Et à chaque fois, c'est des gens qui te contactent. On est d'accord, toi, t'es jamais
tout
allé.
Tout le monde me
chercher.
Contacte.
Ouais, très bien.
Et là, je faisais plus de blogueur.
C'est
de
la beauté
rien.
D'Instagram.
Là, j'avais plus.
C'est la beauté d'Instagram.
C'est, tout va très vite. Instagram, presse. Et plus t'as de clients, En fait, Frishti, après les 30 000 biscuits, ils nous ont commandé tous les mois des milliers de biscuits. Ça est devenu notre plus gros client. Et du coup, ils distribuaient des milliers de biscuits. Donc,
t'as grossi avec eux, ouais. Donc à chaque fois qu'ils levaient des fonds, tu faisais yes.
Mais Frishti, leur croissance a été impressionnante. Ouais, parce que nous, on avait les biscuits, les quantités de commandes. Mais t'avais des semaines où tu te dis, mais comment ils font?
Ils sont forts,
C'était très fort. Même dans les messages des biscuits, c'était hyper bien trouvé. Tu vois, t'avais toutes les semaines des messages différents. Mm. T'avais des messages différents pour les nouveaux clients, des messages différents pour les clients où il y avait des problèmes dans leurs commandes. Enfin, t'avais plein de... T'avais une vraie chantistrate. on leur doit beaucoup dans notre histoire. Et donc, fin 2017, j'ai pas mal d'hôtels qui me disent « Ok, ton biscuit, il est cool. Ils le donnent en accueil dans les chambres. Sauf qu'on voudrait aussi le donner avec le café. Sauf que ton biscuit est trop gros, il est trop cher. Il nous faudrait un format mini pour faire une bouchée. » Sauf que moi, ça impliquait une nouvelle machine pour avoir la forme, etc. Et on n'avait pas la place de rajouter une machine où j'étais. Je demande à la banque de me faire un prêt pour me rajouter une machine. La banque ne me suit pas. Elle me fait pas « Non, mais gentil, vous ne ferez jamais ces chiffres. » Ok. Ouais. Et donc, c'est là où je dis, OK, il faut faire une levée de fonds parce que j'ai pas le choix. Il faut tenter ce mini biscuit. Il y a un gros potentiel. Et donc, je fais une levée de fonds 2018.
Auprès de qui?
Business Angel.
Business Angel, tu leur montres les chiffres, l'attraction.
Mais en plus, moi, je ne gérais même pas les chiffres parce que j'avais trop de choses à gérer. Et moi, je suis.
C'est arrivé, t'as dit bonjour, regardez, voilà, ça cartonne. Merci. Bah,
tu vois, en fait, je suis passée par deux leveurs de fonds, donc qui m'avaient fait un business plan, qui, tu vois, genre donné mes chiffres qu'ils avaient mis dans les cases, en gros. Mais c'était un peu aléatoire quand même. Et il y avait des moments où j'étais en rendez-vous et les mecs me disaient. Quelle sera ta marge sur les biscuits en 2022? J'en sais rien, tu vois. Enfin, et
tu répondais quoi? Tu répondais pas ça.
Quel est ton... Non, mais il y avait des moments où je disais, je ne sais pas. Ouais. Mais avec la levée de fonds, je vais pouvoir recruter quelqu'un qui va le calculer. C'était ma réponse.
Bonne réponse.
Et en fait, comme j'avais été tellement vaccinée des associés, je me suis dit, je veux pas prendre des gens dans ma boîte qui me prennent pas tel que je suis. Et s'ils comprennent pas Chantilly Biscuit, qu'ils me prennent pas pour la boîte telle qu'elle est, méga transparence, je les veux pas. Et je leur disais, moi, vous voyez, j'ai les commandes derrière, j'ai l'attraction, j'ai l'argent sur le compte, mais aujourd'hui, je peux pas livrer les demandes que j'ai.
C'est quand même le meilleur argument pour vendre.
Et puis, au final, c'est des business angels qui n'ont pas mis beaucoup chacun. Donc, tu vois, c'était pas non plus un gros risque. La boîte était saine, tu vois, on était rentable, il y avait une croissance.
Mais du coup, t'as pas eu peur en disant, putain, maintenant que je lève des fonds, va falloir que je rende des comptes à des gens, il va falloir aussi que. Je leur rende leur monnaie de leur pièce, quoi, à un moment donné, tu vois.
J'ai jamais eu cette angoisse. Par contre, j'ai eu l'angoisse au moment où j'ai vu passer le pacte d'associés où je devais m'engager pour 3 ans dans la boîte. Et c'est là où je me suis dit, je suis plus libre, en fait. Et je me suis dit, je voulais pas forcément arrêter dans 2 ans, mais je voulais avoir la possibilité de le faire si je voulais. Et je me suis dit, je m'enchaîne à ma boîte pour 3 ans, ça va être horrible.
Ah, pourquoi tu l'as fait ?
Je pourrais plus partir.
Ouais.
Et en fait, au final, je me suis dit, si je veux partir, je pourrais partir. Tu vois, je suis pas en prison, c'est juste que je partirais sans rien. Mais ma liberté, je l'aurai. Et donc, j'ai signé et puis j'ai bien fait au final.
Et donc là, tu lèves des fonds, il se passe quoi quand tu lèves ces petits fonds ? Tu peux communiquer le montant ou tu veux pas communiquer ?
Je communique pas. Pour donner une échelle, moins d'1 million. Enfin, c'était pas non plus une grosse levée parce que c'était vraiment pour les machines. En parallèle de la levée de fonds, je commençais à visiter des locaux parce que du coup, ça impliquait déménagement et je voulais pas redéménager dans 2 ans. Donc aujourd'hui, je prends un fat truc. Donc je visite un local de 820 mètres carrés, pas très loin de là où on était. Local de rêve. Et sauf que le mec, c'est pour ça que je le disais galère tout à l'heure, le mec, on leur file le business plan, il me dit non mais vous n'aurez pas du tout les moyens de payer le loyer. Enfin, moi derrière vous, j'ai une boîte qui fait 10 millions, je ne vais pas vous signer à vous, vous êtes tout petit, qui me dit que ça marche, votre truc et tout. Et là, je dis non mais ce local, il me le faut. Et donc j'ai expliqué, non mais là, je suis en train de faire une levée de fonds, machin, tu sais... Les mecs, ils te... je fais des biscuits. Enfin, bon, bref. Et donc, les leveurs de fonds l'appellent, le banquier l'appelle, l'expert comptable l'appelle, tout le monde appelle le mec pour rassurer. Et donc, au final, il a fini par signer. Et en fait, j'ai signé le bail, j'ai donné la caution sans avoir la levée de fonds. Et donc, on a fait traîner le truc. Vous ne m'avez pas fait le virement pour la caution ? Si, ça arrive. Parce qu'en fait, je devais avoir un prêt bancaire, garantie bancaire de 6 mois, je ne sais pas quoi. Et en fait, la banque me faisait la garantie bancaire que quand j'avais la levée de fonds, en gros. C'était le deal du truc. Et donc, je ne pouvais pas faire le virement pour le truc. Donc, je disais, non, mais si, il va y avoir un problème, ça va arriver. Donc, j'ai fait traîner le truc 2 mois comme ça. On signe la levée, on entame les travaux. Donc là, je prends... moi, je ne sais même pas comment tu aménages un truc d'agroalimentaire, je ne connais rien. Et donc, on prend une boîte experte et on leur explique notre process de prod et c'est eux qui dessinent le truc.
Okay, sorte d'architecte spécial, cuisine.
Et en fait, à ce moment-là, dans mon équipe, j'en avais un qui habitait... J'avais un mec qui habitait pas très loin de l'endroit où on faisait les travaux, qui était un peu plus loin que chez moi. Et du coup, lui, il allait tous les matins et je lui avais dit, tu es responsable du chantier, moi, j'y connais rien, tu gères. Et ils ont réussi à livrer le truc en 2 mois. Enfin, non, on a dû commencer les travaux en juillet. Non, en juillet, on avait fini les plans et août, personne travaille. Donc, on a commencé en septembre. Et moi, j'avais dit, il faut qu'on déménage début novembre pour pas être en galère à Noël. Et là, ben, en fait, on a déménagé, mais rien n'était fini.
Normal.
Ouais.
Donc déjà... On a jamais vu des travaux qui finissent à temps. Hein. Ça
mais déjà, les mecs m'ont dit c'est un miracle, limite, que tu aies été livré en 2 mois le chantier que tu as fait, parce que tu avais vraiment la plomberie, il fallait la clim, il fallait le sol, il fallait les murs alimentaires, enfin, c'était vraiment les racks, enfin, tout. J'ai même pas idée.
Tu fais de l'agroalimentaire, ouais.
Ah ouais, et là, je dis je veux un truc nickel au top, s'il y a un audit, je veux être clean.
S'il y a un audit, et même, tu n'as pas envie de vendre de la merde.
Ah oui, non, mais c'est clair. Et même pour l'équipe, pour tout.
Et pour
quoi.
Ta réputation, tu as commencé à créer quelque chose. Ouais, ouais. Il faut que ce soit.
Non, clean. Et puis là, il y a les investisseurs qui mettent et tout. Enfin, tu veux pas faire un truc foireux, quoi. Mais bon, moi, je bricole jamais. Je connais rien du tout.
Et comment ça s'est passé? Moi, j'aimerais te poser une question plus toi, en termes de montée en confiance. Parce que tu l'as dit au début, tu étais. Voilà, t'as pas fait l'école de commerce ou quoi, et donc tu te sentais peut-être plus ou moins non légitime.
Mais je me sentais totalement non légitime à ce moment-là.
Comment est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment t'as senti que tu prenais en grade et où est-ce que t'en es peut-être même maintenant? Est-ce que maintenant tu te sens à part entière comme appartenant au Serail, des super entrepreneurs et personne n'a rien à te dire? Quelles sont tes névroses?
Moi, gros complexe du fait que j'ai pas fait d'études déjà, où j'ai l'impression, je sais pas ce que je fous là, le truc il a grandi tout seul, c'était pas prévu, tu vois.
Ça, mais ça, c'est un truc de ouf. Hein. Ça, moi, j'ai un copain de mon père, il a fait des boîtes, genre, c'est un génie du business. Et limite, quand il me parle, il me demande presque conseil, alors que je suis même pas un millième de lui. Et c'est ouf. C'est un complexe, c'est un truc de ouf.
Mais oui, et en fait, même quand tu recrutes, tu vois, tous les gens que j'ai recrutés après, surtout que moi, mon taf, au final, c'est de recruter des gens qui sont hyper bons dans leur domaine. Donc, c'est le but, il faut qu'ils soient meilleurs que moi. Mais t'as ça aussi, tu te dis, dans ma boîte, je suis la plus nulle.
C'est ça.
Vraiment, je sais pas ce que je fous là, je sais pas ce que je fais, le truc va trop vite.
Pour te rassurer, on n'apprend rien en école de commerce. Rien du tout. Vraiment.
Mais en plus, quand t'as un truc où t'as une très grosse croissance, t'as l'impression que tout est à l'arrache, parce que t'as pas le temps de. Même les recrutements, c'était vraiment, vraiment foireux. Et puis tu vois toutes les belles boîtes sur Instagram, machin.
Instagram versus reality, c'est pas ça.
Bah ouais, puis moi, vraiment, en plus, ma vie perso, il n'y a pas de mec, il n'y a pas d'enfant, je sais même pas comment les gens font. Je suis vraiment à l'arrache, vraiment n'importe quoi. Et en fait, c'est arrivé après. Et à ce moment-là, je n'étais pas du tout en confiance. Le levée de fonds, ça m'a un peu aidé dans le sens, je me suis dit, ouais, j'ai réussi à faire ça. Et les mecs avec qui j'ai levé, ils avaient trop confiance en moi. Tu sais, j'étais genre, ils étaient trop fiers de m'emmener en rendez-vous. Donc, j'étais trop contente. Je me dis, si ce mec, il investit chez Chanson des Biscuits quand même.
Ouais.
Des fois, je me dis, mais peut-être qu'il n'a pas compris.
Il sait que j'ai pas fait HEC.
Il a emmené les biscuits en rendez-vous, il a aimé, bon, d'accord. Mais on s'installe, on déménage et tout. Bon, les galères, on a une bonne aussi, donc on déménage. Sauf que la puissance électrique du local n'était pas suffisante pour brancher les machines. Donc en fait, tu branches les machines, tout saute. EDF vient dans 6 mois. Ok. Et en fait, tu fais venir un groupe électrogène qui te coûte, je sais plus.
Un bras et demi.
Ouais. Je sais plus si c'est entre peut-être 5000 euros par mois, un truc comme ça.
Waouh.
Okay. Non, mais c'est méga cher. Enfin, quand tu fais brancher les fours et la clim.
Tout ça, tu runs sur la marge et à la fin de l'année.
Ouais, on n'a pas le choix. Enfin, de toute façon, on a déménagé, il faut brancher le four. Donc...
et t'en es où là? Aujourd'hui, c'est quoi la suite?
De Chantier Biscuit?
Ouais.
Déjà sur la partie confiance en moi.
Oui, pardon, c'est vrai.
Bon, du coup, on déménage, etc. Ouais, 2018. Donc là, en plus, je recrute du coup une personne en marketing. Je recrute un COO qui est devenu mon DG, là, qui a vraiment mis tous les chiffres à plat, toute la partie même management, logistique. Là, maintenant, on a les marges, on a carré. Les chiffres. Là, je sais le panier moyen. je suis trop fière. mais je me sens toujours pas à ma place. Enfin, dans le sens où j'ai l'impression que le truc, c'est un hasard. Bref. Et en fait, un jour, Alice de The Family partage sur le Slack de The Family un message à toutes les filles. Il y avait un concours Veuve Clicquot. De Veuve Clicquot, donc qui a été montée par une femme entrepreneur, promeut tous les ans deux femmes entrepreneurs, donc tu as un prix. Alice, elle avait gagné en 2015, elle avait dit inscrivez-vous les filles, ce prix ça vaut trop le coup, on peut avoir plein de trucs super derrière, etc. Donc je me dis bah vas-y, je vais m'inscrire, rien à perdre. En fait, le dossier il mettait 10 minutes à remplir et c'était des questions du style comment tu te décris en tant qu'entrepreneur. Et en fait, je me suis dit je vais tellement pas gagner que je vais vraiment remettre des trucs. Tel quel, enfin vraiment ce qui me passe sur la tête. Et genre, comment tu te décris entrepreneur? Je me rappelle, j'avais mis, je suis plus proche de Bridget Jones que de Victoria Beckham.
Ils ont adoré.
Des modèles, j'avais dû mettre Lady Gaga, Green Day.
Forcément Green Day.
Et je me suis dit, je réponds en nature peinture et de toute façon, je vais pas gagner. Et au moins, bah, s'il me rappelle, bah, je gagnerai pour ce que je suis vraiment. Et en fait, il m'appelle et il me dit, c'est dans les finalistes. Wow.
Il fallait pitcher après.
Incroyable. Donc en fait, il y avait une petite vidéo qui était tournée. On n'avait pas eu de pitch. Et il s'avère que j'ai gagné ce prix. Et c'était.
Ça t'ouvrait quoi comme porte?
Bah en fait, bon derrière il y avait beaucoup de mise en avant de la part de Veuve Clicquot. Bah, c'est quand même LVMH, etc. Et en fait, c'est quand j'ai reçu le prix et quand j'ai fait même mon discours et tout, c'était je pense le moment le plus puissant de ma vie. Et je me suis dit, ok, si Veuve Clicquot et LVMH te récompensent en tant qu'entrepreneur.
T'es peut-être légitime.
C'est que t'es peut-être une vraie entrepreneur en fait.
Ah ouais.
Et je me rappelle, donc j'ai reçu mon prix, je l'avais su genre 3 jours avant, donc j'avais préparé un petit discours. Et tu sais, t'as quand même Antoine Arnaud devant toi, enfin tu vois, et t'as un prix de. Enfin, c'était assez puissant en termes d'expérience quoi. Et puis derrière, il y a une vraie mise en avant toute l'année,
ils
même
vous prennent
ils m'accompagnent.
Ils ont pris des commandes après LVMH ?
Ah ouais, ouais.
Ok, trop
bien. Veuve Clicquot, il m'invite tout le temps, je suis tout le temps mise en avant. Tu vois, pour les soirées chantilly-biscuit, ils m'envoient les champagnes. Enfin, vraiment, vrai accompagnement où je me suis vraiment sentie dans une famille. Enfin, c'était assez ouf. Et c'est là où je me suis dit, où j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais en fait, t'es à ta place. Bah. Même si derrière, j'ai quand même beaucoup de problèmes de confiance en moi, mais là où je me suis dit, non, tu peux, tu es dans le game.
Et c'est quoi maintenant la suite pour chantilly-biscuit? Jusqu'où tu veux l'emmener cette boîte?
La suite, déjà, c'est de retrouver notre niveau de commande avant Covid, on va dire. On était beaucoup impacté vu que beaucoup d'événementiels, cafés, hôtels, etc. Et on a fait une mini croissance en 2020, mais on a fait de la croissance qui était un vrai exploit. Quand je me revois en mars 2020, où je me suis dit, c'est peut-être la fin. Et en fait, on a réussi à rebondir. Donc, la suite, c'est de retrouver un peu ce niveau de commande, exploiter la partie café, hôtel, resto. On avait fait le mini biscuit pour ça, mais on n'a même pas eu le temps de le mettre en œuvre pour le moment. Et pousser plus loin la marque au-delà du biscuit et faire d'autres produits autour du biscuit, produits un peu dans le même ADN de marque. On a sorti une gamme de thé et infusion à message, faire d'autres produits comme ça. Et j'aimerais bien avoir un point de vente physique aussi un jour.
Bah oui. Et au début, on disait, c'est pas un business que tout le monde peut faire. Tu penses que. C'est quoi le point le plus dur? Parce que moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que le plus dur, c'est d'avoir autant de commandes entrantes plus que la prod, qui toi, en fait, était ton gros problème. On va dire que les commandes entrantes sont arrivées d'un coup parce que tu étais la première sur le marché et tu as réussi ensuite à avoir une super bonne stratégie. Mais que le côté prod, c'est quelque chose qui, pour toi, était super dur. En effet, parce que tu as tout appris sur le tard, mais... Comme ça, je me dis que bon, ça n'a pas l'air d'être le truc le plus dur. Le plus dur, c'est justement d'avoir ta traction, d'avoir ton nombre de commandes. Et du coup, pourquoi toi, tu penses que les gens qui essayent de te copier ou de faire ça n'arrivent pas aujourd'hui
Parce qu'en fait, ils essayent... Après, je n'ai pas envie de leur expliquer comment me copier mieux. Parce qu'il y a la partie prod, vraiment la partie process, logistique. C'est vraiment une science incroyablement précise, la biscuiterie. mais la partie marque aussi. Et le problème, quand tu veux me copier, bah, c'est que tu n'es pas sincère et dans ce que tu fais. En fait, t'es une copie, par définition.
Et
aujourd'hui, moi, je le dis tout le temps, les gens, ils peuvent faire des biscuits, mais ce sera jamais la biscuit, tu vois.
C'est ça qui est ouf avec, je trouve, tout ce qui est direct to consumer. C'est le storytelling de la marque, quoi.
La marque, elle a une vraie histoire, elle a une vraie ADN et il y a une vraie proximité avec les gens sur Instagram. Enfin, moi, je suis la même sur Instagram qu'en rendez-vous. Il y a une vraie histoire, il y a un vrai... Et justement, c'est dans les valeurs de la marque, c'est vraiment authentique. Il n'y a pas eu de fake, ça n'a pas été un produit pensé commercialement. Enfin, ça a été naturel, quoi.
Et du coup, tu veux l'emmener où, cette boîte? C'est quoi l'objectif? C'est d'aller devenir leader européen, leader mondial? C'est finalement de revendre ça à Danone dès qu'ils nous font une belle offre? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
Je sais que je ne ferai pas ça toute ma vie, déjà. Parce qu'un jour, je vais avoir envie de faire autre chose. Et parfois, je suis même frustrée de ne pas avoir le temps pour toutes les idées, parce qu'on est beaucoup dans ma tête. Donc, je sais qu'un jour, je voudrais faire autre chose. Mais moi, le but, c'est de faire une vraie marque avec un ADN impactant et tu vois, d'être reconnue comme telle, tu vois. Et après, j'aimerais bien aussi conquérir les US avec Chantilly Biscuit.
Ah,
on dit le jour où j'ai un point de vente.
Un qui marche aux US.
Un point de vente physique. Ça marche. C'est sûr. Là, tout ce qui est wedding, etc. Là-bas, c'est la folie.
Go Chanty Itchy Birthday.
Tu peux tout faire.
Des milliards de trucs.
Même les, tu t'envoies aux Kardashians. Enfin bref. Non, mais je veux dire, tu les vois poster des donuts. Enfin bref. Ça me paraît très facile à vendre.
T'as fait ça, l'Instagrammeur, on va dire, type les Marseillais à qui tu fous du Chantilly Biscuit pour qu'ils le fassent.
Ouais, on fait très souvent. Dès qu'on lance des produits, tu vois, par exemple, Fête des Mères, on fait des séries de portages influenceurs et on a même plein de demandes, en fait.
Okay.
Tu vois, des influenceurs.
Des mini-influenceurs qui, du coup, te le font.
Mini ou gros, hein, parfois. Ouais. Oui, j'ai vu le biscuit, j'aimerais bien les avoir pour mon anniversaire. Ok, on t'envoie. Et puis après, à force.
Pas forcément des collabs payantes, du coup, ça que tu me.
Non, on a jamais. On a payé une fois une fille pour faire un test sur YouTube, mais sinon, on a été en story de Nabila sans la payer. Enfin,
okay.
Parce que sa marque nous voulait des biscuits, on avait l'adresse, on avait vu qu'elle était tombée enceinte, on lui a envoyé des biscuits pour sa grossesse et elle les a postés en story, enfin, par exemple. Tu vois.
Et donc là, direct, tu vois l'impact business quand ça arrive, ça?
Non, pour le coup, tu vois un impact Instagram, mais tu vois pas forcément. En général, on fait des séries, tu vois, de vagues d'influenceurs, mais on leur fait pas de code promo ni rien. Donc
un
poste vraiment...
de Nabila, c'est 40 000 boules, non? Enfin, c'est un truc énorme, non?
Pas autant, mais facile 15, je pense.
Ouais, ouais 15 000, c'est-à-dire que je souhaiterais...
Non, non, on a jamais fait. Là, on va faire un partenariat avec une influenceuse pour co-brander une gamme de thé. C'est un premier test. Mais sinon, on paye pas. Nous, en plus, on a un produit qui coûte vraiment pas cher. Donc, pour le rentabiliser, il faut qu'il commande des milliers de boîtes. C'est pas possible.
Et donc, conquérir les US, c'est la prochaine étape. Et donc, tu vas relever des fonds, forcément, pour...
C'est sûr que le jour où on est obligé. Et nous, la partie compliquée, ça reste la partie production, parce qu'il va falloir produire sur place et s'adapter
Tu vas te lancer dans le New Jersey, tu vas avoir ton petit truc...
Mais en plus, c'est même pas les mêmes goûts, c'est pas les mêmes ingrédients, c'est pas...
Donc, plus de sucre, là-bas.
Si ça se trouve, ils vont dire que c'est pas sucré.
Et il faut afficher le nombre de calories et tout, des conneries
comme
ça.
Ce sera pas forcément la même... peut-être pas les mêmes biscuits, mais...
Et tu veux pas faire comme ils ont fait Michel et Augustin, là, tu vas en bas de chez Starbucks, Award...
J'irai peut-être pas chez Starbucks, mais je pourrais aller dans des trucs... Mais on a déjà de la demande, en plus... On a des hôtels qui nous ont contactés parce que là, ça n'existe pas donc
Waouh, belle de...
On verra. Mais déjà en France il y a encore un gros chemin à faire mais...
Complètement. J'aimerais du coup là on arrive vers la fin, j'aimerais te poser des questions un peu plus deep. C'est toujours intéressant de voir un peu ce que toi comment tu vois un peu rétrospectivement ce parcours. Tu dirais que c'est laquelle l'erreur qui t'a le plus structuré?
Mais le plus structuré.
Ouais, fait que t'as le plus aidé, quoi. Ton erreur préférée, ta meilleure erreur, celle où vraiment t'as appris le plus, quoi.
Bah, l'association, hein.
Ouais.
En vrai, pendant très longtemps, j'ai dit que c'était une erreur et que vraiment, je m'en suis voulu, j'ai vachement culpabilisé. Et maintenant, je me dis, sans ce passage, j'en serais jamais là aujourd'hui. Au final, on sait pas l'histoire qu'il y aurait eu si je l'avais pas fait, donc... Et oui, ça m'a bien appris, même sur le recrutement, et même moi, ça m'a... forcé à plus avoir confiance en moi, moins me laisser marcher dessus, etc. Mais je dirais ça. Et je pense qu'à refaire, tu vois, j'aurais peut-être levé des fonds pour moins galérer aussi, plus vite. tendu pour sortir de la merde.
Ok. C'est quoi, selon toi, le conseil que tu que t'aurais aimé qu'on te donne plus tôt ?
Bah, fais-toi confiance. Tu vois, c'est pas parce que t'as pas fait d'études que ce que tu penses, c'est faux. C'est pas parce que personne ne l'a jamais fait que ça ne peut pas marcher. C'est pas parce que personne n'a jamais mis un gros mot sur un biscuit que tu peux pas le faire, que ça va choquer. Totalement légitime à être sur Insta et à mettre ce que tu veux. Et justement, n'essaye pas de faire comme les autres, mais essaye de faire quelque chose qui te ressemble, quoi.
Le conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui se lance dans des produits direct to consumer, donc ça peut être des biscuits, des t-shirts, des chaussures, de ce que tu veux, ça serait quoi le conseil que tu donnerais?
Déjà, ne sous-traite ta prod.
Sous-traite ta prod, tu dirais? Ouais.
Ah bah, tous les gens qui me demandent, surtout dans l'agroalimentaire, je dis...
T'as pas sous-traité ta prod?
Ben non, c'est impossible, personne ne le sait. Mais en vrai, c'était un frein et c'est la plus grosse galère. Enfin, là, tu te dis, si on veut vraiment que ça grossisse, un jour, on va devoir monter une usine. On va monter une usine à partir de rien. Enfin, c'est compliqué. Mais non, sans parler de ça, un conseil que je donnerais, bah, oui, ne copie pas quelque chose, en fait. Tu vois, tu peux t'inspirer et n'écoute pas tous les conseils non plus.
Mais du coup, c'est facile de dire ne copie pas. Mais comment tu fais parce que à chaque fois qu'on entend des histoires comme ça, c'est un peu des heureux hasards,
ouais.
On dirait. Enfin, en tout cas, c'est un peu le... Et du coup, si moi, demain, je veux monter un truc direct to consumer, mais j'ai pas de heureux hasard ou j'ai pas le truc qui me tombe dessus, comment je fais?
Non, mais en fait, tu peux t'inspirer, tu vois. Mais dans le sens, copie pas, tu vois. Ne prends pas un modèle et où tu reproduis exactement la même chose. En fait, ça n'a pas d'intérêt pour les gens, en fait. Sauf si derrière, tu peux aligner 20 millions d'euros et doubler l'autre. Mais sinon,
ouais,
okay. Même toi, je vois pas le kiff. Après, je pense qu'il y en a qui doivent l'avoir parce qu'il y en a qui le font, mais de te dire tous les jours qu'est-ce que l'autre a fait, je vais faire la même chose, tu vois. C'est plutôt de te dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? En fait, c'est ta vie à toi, qu'est-ce qui te fait kiffer, en fait? Quitte à te planter. Moi, je me dis, je préfère me planter en faisant un truc que j'aime plutôt que faire un truc énorme où je suis pas fière. Mais je fais la belle, mais
ouais,
c'est dur à part dans le quotidien.
Bien sûr, bien sûr. Et du coup, le mot de la fin, je te le laisse.
Le mot de la fin. Alors, je sais pas quand on va diffuser le podcast, mais j'allais dire, c'est bientôt la fête des mères. Chantibiscuit, c'est un très bon cadeau.
C'est quand la fête des mères?
Là, on le tourne. Le 30 mai.
On le tourne le 6 mai. Ouais, je sais pas si on va le sortir pour le 30 mai. Ça.
Bah, en fait, des pères, c'est juste après.
Ou c'est l'été, attention.
Voilà.
Ou Noël. Mais pensez Chantibiscuit, acheter. Ok. Très bien, très bien, très bien. Bah écoute, Chanty, c'était un grand plaisir. Le temps a tourné à une vitesse folle. J'ai pas vu le temps passer, c'est bon signe.
Moi
j'espère
non plus.
Que nos auditeurs non plus. S'ils sont encore là, a priori, c'est qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Merci beaucoup. Je finis en remerciant encore nos auditeurs, toujours plus nombreux. On essaye de mettre en avant de plus en plus de super entrepreneurs et avec le podcast qui monte, de plus en plus de gens veulent venir nous voir. Donc super. Continuez à le recommander à vos amis, de force ou pas. Notez-nous 5 étoiles, qu'on soit connus et qu'on devienne le Chanty Biscuit des podcasts. On va l'appeler le Chanty Podcast. Merci beaucoup. Salut Chanty, c'était
Ciao.
Un grand plaisir. Bye. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Aussi, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à contact@stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.